Dans le tempo, c'est la rentrée du podcast des passionnés de musique. C'est la saison 4 qui commence, épisode 51. Qui aurait cru que ça durerait si longtemps? Merci d'être là, c'est parti.
Du coup, j'ai dit des choses.
Tu sais, parfois, ça sort ta bouche comme ça, tu sais même pas trop ce que tu racontes.
Mais c'est très bien. C'est très très bien.
Une intro fidèle à toi-même.
Moi, je suis. C'est ok. Et puis saison 4. Déjà.
Saison 4, tu te racontes mon gars.
Le temps passe.
Et dites-vous quand même que là, on a fait un break de quoi pendant les vacances. On n'a pas enregistré pendant un mois, un peu plus, un mois et demi. Un truc comme ça.
Non, quand est-ce que t'es venu chez moi pour la 50?
C'était début août.
Ouais, ça fait un mois.
Et j'ai l'impression d'être rouillé d'az, de ne plus savoir faire, tu vois, c'est terrible.
Ça revient vite, c'est comme le vélo.
J'ai peur d'avoir honte devant notre invité, Riel Musul.
Ah, ça nous fait plaisir de le recevoir.
Mais c'est vrai d'être invité.
Salut Riel Musul.
Salut.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci de l'invite.
Tu sais, je suis tombé absolument par hasard sur un livre cet été. Je le montre à la caméra, comme ça il est beau. J'étais pas loin de Lyon, je tombais dans un Cultura, cherchais un truc à bouquiner cet été. Et je me dis, ouais, mais j'ai jamais entendu parler de ça, un bouquin sur George Clinton. Il s'avère que ce bouquin venait de sortir en réalité, et que c'est toi qui l'as écrit.
Exactement.
Est-ce qu'on doit faire la blague sur Lyon et le funk ou pas?
Mais on peut, mais au contraire.
La funk.
La funk.
Mais oui, c'est le côté un peu plus street du funk.
La semaine dernière, j'étais à Lyon et ils ont pas arrêté de me provoquer avec la funk. J'ai rien dit. Mais j'y retournerai avec des vraies histoires pour mettre les choses en place.
Donc on est d'accord que c'est le funk.
Bien sûr.
Voilà. Oui, mais la funk, tu sais, c'est le côté plus électro-funk,
boogie,
disco, boogie,
Chalamar, ouais,
et ça a un certain sens, je comprends en tout cas, tu vois ce que ça signifie.
Oui, mais c'est comme ça qu'on commence à être tolérant, et petit à petit on se fait grignoter et à la fin, tu dis la wifi, tu vois.
Mieux vaut être intolérant dans la vie.
Exactement.
On est d'accord.
Des choses sur lesquelles on ne cédera pas.
Okay. Tu vois, on est avec un vrai.
Ouais.
Le Riel.
Ouais. Voilà. Le Riel Musul. Et ça fait plaisir.
Absolument. Daz.
Ouais.
Pour ce 51e épisode, pour inaugurer cette nouvelle saison, on va donc parler effectivement de ce bouquin que j'ai trouvé absolument passionnant au fil de ma lecture. Je me suis dit, on va l'inviter, l'auteur, tout simplement, parce que c'est, je le cite d'ailleurs, P-Funk, l'Odyssée de George Clinton. Comme son nom l'indique, sur le P-Funk, sur l'histoire de George Clinton, acteur majeur de l'industrie musicale, de l'histoire musicale des États-Unis et même au-delà.
Tout le monde le connaît sans le connaître.
Absolument, exactement. Et en fait, tu sais ce que je me suis dit, c'est on n'a jamais fait vraiment d'épisode dans DLT où on revient un peu sur la carrière d'un seul artiste, où on retrace ça de manière un peu chronologique, ce qu'on va essayer de faire. Mais je trouvais ça pertinent avec George Clinton parce que j'ai trouvé que ça illustrait aussi, d'une certaine manière, l'industrie musicale et comment on faisait de la musique de toute la seconde moitié du XXe siècle aux États-Unis. Parce qu'en fait, il croise tout le monde, il joue avec tout le monde, il multiplie les labels, les albums, etc.
Les embrouilles.
Les embrouilles aussi, les drogues aussi, accessoirement. Et je pense qu'il y a de quoi dire et que ça va intéresser nos auditeurs, j'espère en tout cas.
J'espère aussi.
Très bien, je te présente quand même rapidos, Daz.
Oui, ça serait bien.
Et tu vois, ça va être rapide parce que quand on tape Riel Musul sur Internet, figure-toi qu'il n'y a pas grand-chose. Parce que tu es un homme secret.
Exactement. Homme secret ou très mauvais CEO sur Google. Non, mais c'est parce qu'en fait, comme j'écris aussi sous mon vrai nom, j'écris aussi sous mon pseudo, j'ai écrit sous d'autres pseudos comme Jean Lynx, comme Max Puissant, des choses comme Max Puissant, j'aimais bien ça. Il était très bien sûr. Je regrette de pas l'avoir. Après, sur Riel Musul, c'est n'importe quoi.
Ouais.
Mais bon, je suis pris dedans, maintenant j'ai plus trop le choix.
Ok.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que t'as plus de 20 ans derrière toi d'écriture dans la presse musicale.
Oui.
Très funk, globalement.
Oui.
Pas mal hip-hop aussi, quand même. Ce qui fait d'ailleurs.
Beaucoup afro aussi.
Beaucoup afro, ouais. Ce qui fait qu'on t'a retrouvé, alors pas à l'origine du fanzine historique qu'est Get Busy, un grand fanzine qui parlait de hip-hop, et qui a connu plusieurs renaissances, notamment sous forme d'émissions radio puis télé chez Click. Et là, tu as rejoint l'aventure avec Sœur, tu présentais cette émission chez Click notamment. C'est là où on t'a un peu plus vu.
C'est la faute de Sœur, tout est la faute de Sœur.
En tout cas, on
rigolait bien cachés sur Internet tous les deux, puis un jour il m'a mis en avant sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Pas de manière la plus glorieuse, mais il l'a fait quand même. Merci. Et voilà, et du coup, je me suis retrouvé avec lui embarqué à la radio puis à la télé.
Est-ce que Get Busy, c'est toujours interdit aux bâtards ou pas?
Plus que jamais, je crois.
Yes!
Bah, c'est vrai que tu aimes les bons mots. Tu es connu pour tes introductions très littéraires, très écrites. Et puis ta petite bio, alors le seul truc qu'on trouve, tu vois, officiel sur la vie de Riel Musul, c'est né à l'âge de 8 ans, a passé les meilleures années de sa vie dans des geôles de Jakarta où il rédigea son best-seller.
Quelle merde!
Poignant recueil de chroniques musicales, des vers fiel et amertume sur simple demande, tarifs dégressifs et prix de groupe.
Exactement.
C'est bien de le préciser.
C'est bien de le préciser, toujours important, parce que les sous, c'est quand même le nerf de la guerre.
Exactement. comme ça, si vous faites des commandes de groupe, on fait des prix, c'est normal.
Bon, on va se lancer dans le vif de cette émission, Reed Musul. Le bouquin est chronologique, il se lit comme un roman. Ça raconte à la fois les sorties d'albums, l'histoire personnelle de George Clinton, toutes les personnes qui croisent, les morceaux marquants. Tu parles un peu des morceaux d'ailleurs, mais de quoi il parle, etc. Tu parles même des pochettes, ça revient, etc. Ça, c'est très complet sur toute l'aventure P-Funk. On va un peu dire ce que c'est exactement le P-Funk. Donc tout ça s'axe autour de la personnalité de George Clinton. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre cette émission de manière à peu près chronologique et peut-être aborder dans un premier temps les débuts. Qui est cette personne? Et à ma connaissance, ça débute dans un salon de coiffure, cette histoire, à peu près.
Ça débute sous le doux. Alors, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le livre, c'est pas du tout une biographie. En fait.
Ouais.
J'ai pris Clinton comme l'axe directeur du P-Funk, parce que c'est lui qui en est le créateur, ou au moins l'agrégateur de tous ces talents qui ont fait le P-Funk. Et donc, voilà, il n'y a rien sur sa vie personnelle, son enfance, etc. Juste comment il découvre la musique. Et en fait, il découvre la musique en 1956 avec le doo-wop, avec un groupe qui s'appelle Frankie Lymon and the Teenagers. Et c'est le morceau, c'est Why Do Fools Fall in Love. Et il découvre ça, c'est un gros hit hein, de l'époque.
Et ben on va s'écouter un extrait tout de suite. Why Do Fools Fall in Love, Frankie Lymon. Et donc ça, c'est l'origine de sa passion pour la musique. Qu'est-ce qu'il va faire comme musique au début, en gros?
C'est le point de départ, parce qu'en fait, ce truc, c'est un gros succès aux États-Unis. Hein. C'est vraiment, faut savoir que ça a lancé énormément de groupes. Il y a eu des milliers et des milliers de groupes qui se sont lancés parce que c'est un groupe de ces teenagers. Donc, les gens les teenagers se sont reconnus là-dedans. C'est facile à monter. Tu vois, t'as des potes, tu peux chanter un petit peu, t'as pas besoin d'avoir du matériel. Globalement, ça se construit toujours avec un qui chante bien.
Ouais.
Les autres qui font un peu les harmonies autour et voilà, quoi.
Allez, on s'écoute un extrait. Frankie Lymon, The Teenagers, Why Do Fools Fall in Love. Un truc qui est tout de suite marquant avec cette musique, c'est que c'est beaucoup basé sur le chant. Est-ce que c'est justement ce que va faire George Clinton au début? Il va chanter?
C'est ce qu'il va faire au début. Il va monter un groupe de doo-wop avec ses potes de l'époque. Il a 15 ans à l'époque hein, quand il découvre ça. Donc c'est quelque chose qui va évoluer au fil des années. Tu vois, au début, c'est vraiment les potes. Et puis ensuite, après, il y en a qui s'en vont. Ensuite, il recrute des potes. Il recrute Fuzzy Haskins, par exemple, qui va être le lead vocal des Parliament, qui lui vient d'un autre groupe, etc. Et il y a des petites compètes comme ça au niveau des groupes de doo-wop sur les scènes locales, des compètes entre les groupes du lycée adverse, etc. Machin. Et c'est vraiment quelque chose dans lequel il se met. Mais le doo-wop, en fait, tu vois, comme c'est marqué par les harmonies vocales, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver chez Clinton, la précision des voix, les harmonies vocales, qui vont mêler après des femmes et des hommes en même temps, c'est quelque chose qu'on va retrouver vraiment pendant toute sa carrière.
Ouais. C'est marrant, parce que toi, George Clinton, ça te parle à la base ou pas?
Bien sûr, ouais.
À travers surtout les gens qu'il va influencer, parce que c'est un truc dont on parlera dans l'émission, il va influencer beaucoup.
À travers toute la scène hip-hop, aussi bien new-yorkaise que californienne, qui a samplé du George Clinton, du Parliament, du funkadélique et... à pleine balle, quoi.
Et tu te doutais que ses premières influences étaient ce type de musique?
Ben, je sais que le mec, c'est un gars à l'ancienne, tu vois. Donc, je me dis que, vu qu'il a inventé un style musical, forcément, il a dû commencer avec quelque chose d'autre. Ouais. Je pensais pas que ça serait du doo-wop, mais, tu vois, je voyais plus du jazz ou des trucs, mais pourquoi pas, ouais, en vrai.
Parce qu'on est dans ce salon de coiffure, parce qu'il est coiffeur en fait.
Alors il travaille dans une usine de hula hoop, et ensuite...
Une usine de hula hoop?
De hula hoop, ouais.
Ça existe?
Bah écoute...
C'est vrai qu'il faut les construire.
Ça existait, ouais. Et du coup il se retrouve finalement à faire coiffeur. Ouais. Alors il travaille d'abord à Newark où il habite. En fait au départ il est originaire de Caroline du Sud. Ses parents vont habiter à Newark dans un grand ensemble...
Newark, on est près de la grande ville.
C'est New Jersey.
Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, dans les grands ensembles, enfin un peu truc un peu ghetto quoi. Voilà. Et en fait, il trouve un autre boulot à Plainfield, qui est à une vingtaine de miles de là, dans un autre salon qui s'appelle le Silk Palace. Et Plainfield, c'est là qu'il va en fait embarquer tous les autres. Alors on a à l'époque quand il part à Plainfield, vraiment le groupe commence à être ce qui va être vraiment les Parliaments originales, qui s'appellent les Parliaments. Donc c'est George Clinton, Fuzzy Haskins, Grady Thomas, Ray Davis et Calvin Simon.
Okay.
Voilà, c'est ce qui va rester. C'est vraiment les cinq Parliaments originaux. Et en fait, le nom des Parliaments vient d'un marque de cigarettes, tout simplement.
D'accord. Et tu dis d'ailleurs dans le bouquin que c'était une mode à un moment, qu'il y a plein de groupes qui prenaient des noms de
cigarettes.
Oui,
c'est ça. Ouais. Il y a eu les Chesterfields, les Penguins, des choses comme ça. Voilà.
Incroyable. Et donc, il va commencer rapidement à enregistrer du doo-wop, en fait, George Clinton, avec The Parliaments.
Alors au départ, c'est vraiment le ce qu'il faut savoir, c'est le salon de coiffure, c'est une espèce de MJC local.
Okay.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment le truc qui attire. C'est les salons de coiffure, faut pas. Faut
les barbershops.
Voilà, exactement. C'est un barbershop, c'est là où on vient discuter.
Y a où des... les gens restent assis pendant
exactement,
toute la journée.
Exactement. C'est pas le salon de coiffure comme on peut l'envisager en France.
Okay. En vide hair.
Voilà. Ah, vous dégage bien la nuque. Voilà. Et du coup, c'est vraiment le truc qui, c'est vraiment l'endroit qui attire tous les jeunes de Springfield, j'allais dire pas du tout.
Mais pourquoi
ça,
pas
ça marche aussi.
Il apparaît dans un épisode des Simpsons, je pense. De Plainfield. Ouais. Donc tous les gosses traînent un peu là-dedans. Donc beaucoup vont finalement intégrer les groupes de Clinton successifs. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire?
Et The Parliaments, donc il commence à enregistrer assez vite des morceaux, mais il joue au début ensemble.
Alors le truc, c'est que Clinton cherche toujours, lui il a vraiment une idée, son idée, son modèle, c'est Motown. Il veut vraiment se rapprocher de ça, son idole c'est Smokey Robinson, et il veut vraiment se rapprocher d'un truc de Motown, et ils sont pas super loin que ça de Détroit.
Ouais.
Donc ils ont la chance de pas être à l'autre bout du pays, parce qu'à l'époque quand même Détroit, Motown, c'est vraiment le truc qui...
C'était central.
L'usine à hit, quoi. Tu vois, c'est vraiment le truc où tout le monde va frapper à la porte. Ils n'ont pas besoin de mettre des petites annonces. Les gens viennent d'eux-mêmes. Mmh. Et c'est vraiment son rêve. Et donc, ils commencent à enregistrer avec les Parliaments. Ils enregistrent un premier truc qui sort sur acétate. Ensuite, ils enregistrent un deuxième. Ils arrivent à décrocher un deal avec APT Records. Ils enregistrent un truc qui s'appelle Pour Willy Boys. Okay. Pour Willy Boy, pardon. Mmh. Qui ne marche pas spécialement. Mais le truc définitif. Alors. Avant d'avoir un truc définitif, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses.
Bien sûr.
C'est que Clinton va aussi travailler comme auteur pour la Motown.
Ok.
Donc en fait, ils vont aller auditionner à Motown, et on va leur reprocher en fait un manque d'originalité, trop proche des Temptations.
Donc ils arrivent avec The Parliaments, ils disent nous on va être signé chez Motown.
Ils font des auditions parce que c'est un truc vraiment classique chez Motown, ou je suppose aussi dans les autres labels de l'époque. Mm-hmm. Et en fait on leur reproche un manque d'originalité, donc non, et donc ils retournent à Plainfield avec un petit peu pas terrible, mais quand même Clinton il a vraiment il sait que c'est ça qu'il veut faire, donc il insiste.
Oui, c'est ça qui est notable quand même, c'est que du coup enfin il entend du doo-wop dans le salon de coiffure là, enfin dans le barbershop, et il se dit je vais faire ça en fait.
Ah oui, c'est ça, non mais c'est un truc vraiment qui dès le départ il savait que ça allait passer par là en fait.
D'accord.
c'est vraiment ce qu'il voulait faire, et il se retrouve en fait à intégrer malgré tout la Motown en tant qu'auteur par alors ce qui se passe, c'est qu'il y a la femme de Berry Gordy dirige une société qui s'appelle Joe Bett Records.
Berry Gordy,
le patron de la Motown, etc. Exactement. Et en fait, elle dirige une société qui s'appelle Joe Bett Records, qui gère des droits d'édition. Et elle est en recherche d'auteurs pour avoir des chansons et pour générer des droits, quoi. Et donc, Clinton est amené là-dedans par Sidney Barnes, qui est vraiment son grand pote. Et George Kerr, qui eux aussi ont fait des morceaux de doo-wop avec les Serenaders, je crois. Et
encore une marque de clope.
Ouais, probablement. Et en fait, eux n'ont pas fait l'affaire. Donc, ils ont enregistré un 45 tours qui n'a pas forcément marché, mais voilà, il y a quand même le côté, ils savent écrire, donc on va les garder. Et c'est donc Sidney Barnes et George Kerr qui présentent Clinton à Renoma Berry, qui est donc la femme de Berry Gordy, et il va avec deux autres parliamentes, avec Grady Thomas, avec Fuzzy Haskins, il va écrire une trentaine de morceaux.
Ok.
Mais pour du coup les artistes.
Pour les artistes Motown, par exemple, il y a un morceau qui s'appelle I'll Bet You, chanté. Alors Funkadelic l'a repris, mais c'est un morceau qui a été chanté par les Jackson 5, c'est George Clinton qui l'a écrit.
D'accord.
Alors écoutons, si tu veux bien, un extrait, un morceau de l'époque The Temptations, vraiment doo-wop, pour qu'on ait une idée de d'où ils partent. Parce que là, il y avait l'influence avec Frankie Lymon. Est-ce que tu aurais une idée d'un morceau un peu représentatif de cette première phase entre guillemets de The Temptations?
Absolument pas.
C'est vrai. pour Willie Boy éventuellement.
Pour Willie Boy, mais sinon on peut directement passer sur I Want to Testify.
C'est vrai. Tu penses que c'est plus c'est encore l'époque doo-wop quand même?
Ouais.
Eh ben écoute. I Wanna Testify, The Parliaments, donc à l'époque encore. Incroyable, comme c'est tellement pas ce qu'on connaîtra de Parliament Funkadelic derrière.
Mais l'intéressant, c'est que bon, on va passer sur les détails parce que sinon si je raconte tout le livre, les gens vont pas l'écouter. Mais
achetez-le,
voilà,
allez, hein.
Voilà, Clinton se retrouve à écrire ce morceau. Et en fait, c'est le morceau qui lui apporte le succès. Il fait d'autres trucs avant, hein, quand même, hein, mais bon, je vais pas tout raconter. Et c'est le morceau qui lui apporte le succès. C'est un morceau qui se classe dans les charts. Et donc voilà, les Parliaments, ils ont un peu une exposition, etc. Donc ils font l'Apollo, l'Apollo Theater, qui est vraiment le théâtre mythique d'Harlem, de la musique noire, quoi.
Salle de concert où on passait James Brown,
ouais,
comme ça.
Tout le monde, quasiment tout le monde, de l'époque de la grande Great Black Music. Et en fait, c'est un échec total, en fait, parce que le groupe, il est pas bien derrière. C'est un échec, ça marche pas, en fait, quoi. Donc, ils retournent.
Sur scène, ça marche pas.
Sur scène, ça marche pas, ouais. Ils sont ridicules.
Parce qu'en gros, George Clinton a déjà démontré avec Motown qu'il est capable d'écrire, mais il n'y a pas encore l'entourage.
Mais c'est ça. Il
n'y
a pas un vrai bon groupe derrière. Et donc, ça marche pas. Donc, il rentre quand même à Plainfield, mais il a compris qu'il fallait vraiment un bon backing band, sinon, il n'aurait pas y arrivé, quoi.
Là, on est en quelle année à peu près ?
On est en 67, là.
D'accord.
Voilà. Donc, il va monter un backing band avec quelqu'un qui traîne dans ses pattes depuis qu'il est môme, qui est Billy Nelson, qui traîne dans le salon de coiffure. Donc, lui, joue de la guitare. Billy Nelson est à l'Apollo Theater ce jour de naufrage. Mmh. Mais il a 17 ans, tu vois. Il a la guitare, il a 17 ans, voilà. Donc, il le garde, lui. Bill Bass, donc ça va être son surnom après. Billy Nelson amène un pote à lui qui est Eddie Hazel, qui va devenir le guitariste de Funkadelic.
Absolument mythique, qu'on entend notamment sur le fameux solo de Maggot Brain qu'on écoutera tout à l'heure. C'est Eddie
Hazel. Et il rencontre par un chemin détourné que je ne vais pas raconter, mais il tombe sur Tiki Fullwood, un batteur qui se dit mais c'est lui qu'il nous faut, quoi. Donc ils arrivent à convaincre Clinton. Donc voilà, ils ont trois. Clinton a ces trois-là. Et il a un autre clavier qui va être Mikey Atkins, je crois. Et donc ils montent ce groupe, mais il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que eux savent que le doo-wop c'est plus pour eux, en fait. Parce qu'en fait le doo-wop, il y a aussi une énorme mode. Et là c'est un peu parti, quoi. Donc ils commencent à s'orienter, ils commencent à fréquenter beaucoup la scène hippie et tout ça. Ils jouent un petit peu avec tous ces mecs là ça commence à jouer sur leurs vêtements. Ils s'habillent avec des ponchos, des trucs comme ça. D'ailleurs, il y a un des membres des Parliaments qui est Calvin Simon qui part au Vietnam. Et quand il revient, il reconnaît plus ses potes, quoi, parce qu'il n'a pas la même musique que quand il les avait laissés. Tu vois, ils sont plus du tout habillés pareil. Mais surtout, il y a deux événements qui vont se passer la même année. La première, c'est que pendant un concert, ils sont approchés à Boston. Ils sont approchés en sortant par des étudiants qui leur proposent d'essayer un truc qui risque de leur plaire pas mal.
Le LSD.
Voilà. Moyennant un petit quelque chose, d'essayer, quoi. Et là, ils découvrent l'acide.
Ouais.
Et là, c'est la première révélation pour Clinton et pour les autres aussi, quoi. Ils vont rester perchés pendant très très longtemps.
C'est dingue parce que parfois c'est un peu un cliché de parler de drogue dans le milieu festif, artistique, musical, etc. Et en l'occurrence, là, ça a joué une part non négligeable sur l'univers qu'ils vont ensuite développer dans leur carrière artistique.
Ah, mais en fait, c'est toujours pareil. Quand c'est comme les drogues, c'est comme l'alcool. T'as toujours la période où c'est cool, puis après, ça descend, quoi. Mais la période où c'est cool, ça va être vraiment quelque chose, ça va être un moteur créatif incroyable, quoi.
Il y a un élément, on reviendra sur la drogue, mais il y a un truc que je trouve assez passionnant dans le bouquin et que t'as un peu cité en disant que Clinton a écrit pour la Motown, c'est qu'on a une époque de la musique. Alors c'est peut-être encore valable aujourd'hui, peut-être dans la grosse industrie américaine, peut-être un peu en France aussi quand t'es vraiment à un très haut niveau où tu fais intervenir plein de gens très différents. Mais globalement, on a plus un rapport de la musique aujourd'hui à la limite auteur-interprète éventuellement, mais un truc assez restreint quand même, tu sais, de gens qui travaillent, et voire parfois on considère que c'est un bon modèle, que la musique vient vraiment de soi, tu vois. Et est-ce que ça illustre cette époque ? Et il faut que tu nous en parles un petit peu, si tu as quelques éléments sur le fonctionnement de la Motown. C'est qu'en fait, ils ont 3 milliards. C'est l'usine, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a des mecs qui toute la journée font qu'écrire, d'autres qui toute la journée font que jouer de la guitare, machin. Et on assemble tout ça et on produit. Sans... On pourrait dire qu'il n'y a pas d'âme aussi dans tout ça, tu vois.
Il y a une âme dans la mesure où, chez Motown, même si c'est il y a un producteur comme il y a pu avoir Lamont Dozier, par exemple, et ben ce producteur-là, il fait un team de musicien et puis il arrive à leur faire produire des choses, donc malgré tout il y a quand même un vrai truc artistique, quoi. Mais c'est vrai que chez Motown tout est comme ça, mais c'est Détroit, en fait, hein. Détroit, c'est les usines de voitures, et c'est Ford, hein.
C'est Motown,
tu vois, donc c'est vraiment ça, hein.
Mais en fait c'est ce qu'on fait maintenant, les usines à
il y a le contrôle qualité derrière pour savoir, enfin vraiment ça marche comme ça, quoi. C'est artistique malgré tout, parce que Motown a révolutionné. J'ai mis du temps à m'y mettre, à Motown, mais plus ça va, plus j'aime. Et malgré tout, c'est envisagé comme un produit. Ouais. C'est-à-dire avec toutes les étapes, on fait pas n'importe quoi.
C'est marrant parce que des gens, après on réagira à ce que tu disais sur aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui vont dire oh, la musique est devenue un produit de consommation, c'est un peu réa, etc. Et qui vont ne jurer que par la Motown, qui en l'occurrence est un truc ultra-industriel.
Bah ouais.
Mais avec de la qualité, c'est toujours
c'est,
ça.
Bien
c'est,
sûr.
C'est toujours ça.
Mais c'est pas tant le processus de création, tu vois, qui est problématique. Mmh. C'est plutôt, à la limite, on ne peut apprécier ou pas ce qui est produit derrière, etc. Mais le fait de mettre plein de gens et qu'ils soient à l'usine, bah, ça peut créer de la bonne musique aussi, quoi.
Ah,
même si c'est une industrie.
Beyoncé, c'est ça. Hein,
Mais il y a Motown, il y avait le groupe, vraiment le noyau de musiciens, les Funk Brothers, qui passaient des heures, peut-être même des jours dans le studio, puis ça crachait du groove à fond la caisse, quoi, et des arrangements et tout, puis après il y avait quelqu'un qui derrière avait un petit peu peaufiné le truc, et puis voilà, quoi.
Je suis d'accord avec toi, hein, quand tu cites des exemples type Beyoncé, etc. En fait, quand tu prends vraiment les ultra pop stars, ils sont entourés, tu regardes les crédits d'un morceau, il y a 10 producteurs derrière, producteurs au sens de mecs qui ont composé la musique, etc.
Le
aussi.
Top liner, le gars des refrains,
c'est absolument monstrueux, mais je trouve quand même qu'on est dans l'idée générale. Généralement, qu'on apprécie une star, enfin un artiste de la musique, quand t'as l'impression que ça vient du cœur, que c'est lui qui a mis un peu, qui a mis les mains dans le cambouis, etc. Voir aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui à la fois interprètent, chantent, ont composé derrière,
mais
etc.
Mais ça, c'est très français.
Ouais, tu penses?
Parce que si tu prends par exemple justement ces artistes-là, aux États-Unis, il y a aucun complexe à avoir par exemple des rappeurs qui n'écrivent pas leurs textes.
Ouais.
Alors qu'en France, c'est impensable. Évidemment que tu dois écrire tes textes toi-même, sinon t'es pas un vrai rappeur, tu vois, sinon t'es pas un vrai artiste. Les États-Unis, les Américains sont beaucoup plus décomplexés sur cette approche-là. Donc en fait, se dire que tu incarnes le morceau vraiment avec tout ce que t'as en termes d'émotion, de trucs à faire passer, etc. Mais que ce morceau que tu incarnes à merveille, il a été écrit par 24 personnes, bon, en vrai...
Ça me fait penser, j'ai vu une vidéo tournée sur Twitter récemment de Warren G, qui s'exprime sur qui met dans le top vraiment des rappeurs all time, et il dit qu'il met Eminem, et il dit pourquoi, parce que il trouve que Eminem a écrit en fait le texte The Watcher de Dr. Dre, et qu'il trouve ce texte absolument incroyable, et il dit le mec s'est mis dans la peau de Dr. Dre, et effectivement il valorise le fait que qu'un mec a écrit
le ghostwriting, c'est ouais, tu vois, Jay-Z a écrit pour Dr. Dre aussi, tu vois,
sur Dre.
Ouais, Still Dre, ouais, c'est Jay-Z qui a écrit. Snoop, il a écrit tous les textes de Dre quand il était. Enfin, Snoop et The D aussi quand il était sur The Chronic, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, c'est normal. En fait, les mecs s'entourent de gens talentueux. Et si le mec, il sait mieux écrire que toi, tu le laisses écrire. C'est normal. Mais c'est quelque chose qui est admis et qui est même pas masqué. Alors que chez nous, c'est un peu plus.
Tu penses qu'il y a un rapport lié au pays? En France, c'est un peu plus compliqué, ce
différence de mentalité.
Je sais pas, mais ce que je voulais ajouter, c'est qu'il faut pas oublier que chez Motown, ils avaient tous des super interprètes. Je veux dire, on parle pas de numérique, on parle pas de trucs de voix retouchées et tout ça. C'était des super chanteurs. Quand tu vois, malgré tout, il y en a qui sont passés aux oubliettes, il y en a qui ont eu des carrières compliquées, mais Diana Ross, Stevie Wonder, Marvin Gaye, enfin tout ça, ça sort de chez Motown quand même.
Les Boys to Men.
c'est vrai, Motown derrière.
Motown Philly, le truc.
Ouais, mais est-ce que c'était la grande époque de Motown?
C'était l'époque où justement Motown, c'était un truc de ringos un peu, dans les années 90, tu vois. Et les mecs, ils arrivent avec de la New Jack et c'est produit par Motown et ça fait plaisir, tu vois.
Alors, il y a un autre élément, Rhythm Musul, qui ressort un peu dans la discussion qu'on vient d'avoir. C'est le côté, et on peut peut-être continuer à y avoir un peu la narration comme ça, c'est le fait de trouver des membres d'un groupe, et que d'une certaine manière, et on va le voir tout au long de la carrière de George Clinton, les gens sont, si ce n'est interchangeable, ça évolue sans cesse, un line-up.
Alors, ça évolue sans cesse, mais Clinton, il faut lui reconnaître quelque chose. En tout cas, l'histoire lui a montré qu'il avait rarement laissé passer un bon talent. Que ce soit à n'importe quel poste musical, que ce soit un mec pour lui faire des pochettes, machin, ou même ses ingé sons. Il en a laissé passer forcément, mais bon, je sais pas. Tu sais, c'est comme les joueurs de foot où t'entends, comment ils ont pu le laisser passer au centre de formation? Ouais, mais bon, ça arrive à tous les clubs, quoi. T'es pas au courant de tous ceux qu'ils ont laissé passer, en fait. Et Clinton, que ce soit, Eddie Hazel à la guitare, plus tard Michael Hampton pour le remplacer, Bootsy à la basse, tout ça, enfin, Stozo the Clown, ou Pedro Bell pour les illustrations. Il s'est jamais trompé, en tout cas.
Parce qu'il y a une histoire que je trouve géniale. Alors là, on avance un peu dans le temps, mais c'est pas grave. On est libre dans cette émission. Il a toujours été quand même un admirateur, je sais pas, mais en tout cas, évidemment, comme tout le monde, il s'était pris James Brown dans la gueule, George Clinton.
C'est lui qui commande.
Ça, c'est vrai.
T'es oublié.
Ça, c'est vrai que
c'est James Brown qui commande.
Il y a un truc commun. C'est que, je sais pas si tu savais, mais James Brown était un tyran absolument terrible.
Le Godfather, bien sûr.
C'était un tyran absolument terrible. Et George Clinton, alors peut-être moins brutal, moins violent, mais par contre, dès qu'il fallait parler d'argent, par exemple, c'est compliqué.
Ça a toujours été ça, hein, la musique.
C'est assez terrible.
Surtout à cette époque-là, il y avait un peu un côté un peu plus Far West, quoi.
Et ce qui est fou avec James Brown, c'est que James Brown avait aussi cette capacité. Il y a vraiment un parallèle, c'est vrai, à faire entre les deux artistes, à s'entourer de manière absolument incroyable. Et il y a un moment où George Clinton, bah, il va piquer en fait tous les musiciens de James Brown.
Ouais, mais c'est, ça se passe. Il les vole pas vraiment. En fait,
il passe entre temps par un autre.
L'histoire, la différence notable entre James Brown et Clinton, c'est que James Brown veut voir qu'une seule tête. Il a décidé que c'était comme ça, voilà. Alors que Clinton est dans une approche de dire libérez-vous, trompez-vous. Allez là où vous n'êtes pas allé, et si c'est pas ça, faites demi-tour et revenez et allez ailleurs. Et il y a vraiment cette approche-là de. C'est le nom du deuxième album de Funkadelic qui s'appelle Free Your Mind and Your Ass Will Follow. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, il a vraiment incité les mecs à être eux-mêmes, quoi. Mm-hmm. Ce qui s'est passé pour les musiciens de James Brown, c'est que Bootsy Collins, on va pas raconter l'histoire de comment Bootsy Collins arrive parce que c'est une bonne partie du truc, mais à un moment s'en va. Pas que lui, hein, il s'en va avec son frère Catfish, avec Frankie Wadi, le batteur, enfin tout le groupe s'en va.
Un peu plus tard, il y a Messé au Perker,
voilà,
Fred Wesley.
Ça arrive dans avec une deuxième charrette, ça. Mais en fait, Bootsy est à Détroit, ils vont voir un petit peu, ils vont taper à la porte de Motown, justement, pensant qu'ils arrivent, ils tapent et ils disent « Ouais, je voudrais voir James Emerson ». Il dit « Ouais, c'est par là plutôt ». Et en fait, ils sont jetés partout, il essaye de se lancer dans une carrière un peu solo qui marche pas, mais il est managé à l'époque par Malia Franklin, qui est hébergée d'ailleurs par Malia Franklin, qui elle travaille avec Clinton. Et elle se dit que la musique que fait Bootsy, il faut absolument qu'il rencontre Clinton, quoi. Mmh. Et en fait, ils se connectent une première fois, à l'époque où Clinton fait avec Funkadelic America et Titi Young. Donc, le groupe de Bootsy fait un petit peu quelques trucs dessus. C'est pas encore le moment. Ouais. Donc, Bootsy se dit que c'est pas lui, il s'en va parce qu'il veut vraiment une carrière solo. Et au moment où ils reviennent et qu'ils se connectent vraiment, ça fait des étincelles, quoi. Ouais.
Alors, tu sais ce qu'on va faire, c'est que, parce qu'on a écouté The Parliaments, on était encore en période doo-wop, est-ce que y a des morceaux qui représentent un peu cette transition et comment petit à petit on va arriver au son que l'on connaît, et notamment peut-être la première transition, c'est de The Parliaments à Parliament, parce qu'ensuite il y a un autre groupe qui s'appelle Funkadelic, qu'on va préciser.
Alors, c'est un peu compliqué.
Mais c'est quoi un peu le moment où ça switch comme ça, musicalement?
Il y a une autre, parce qu'on parlait de la découverte de l'acide, il y a quelque chose qui est très important et qui se passe la même année, en 67, c'est-à-dire qu'eux partagent énormément la scène avec des groupes comme les Stooges, les MC5,
la musique de Détroit, mais
on est sur un truc un peu plus véhément, quoi. Ouais. Et en fait, Clinton est toujours dans ce sas de sécurité, en fait, dans ce vide sanitaire entre les deux, c'est-à-dire qu'il est trop noir pour les blancs et trop blanc pour les noirs, parce que voilà. D'autant qu'il a commencé, sa musique a commencé à évoluer, et en fait, un jour où il joue avec Vanilla Fudge, qui est un groupe de rock piqué, voilà, ils ont une super cover de Keep Me Hanging On. De Diana Ross et les Supremes, justement. Okay. Et en fait, le matériel de Funkadelic, enfin du groupe de Clinton, est en rade, et donc ils jouent sur les amplis de Vanilla Fudge, qui eux jouent avec un mur d'ampli, quoi. Et tout de suite, ils se disent, oh, c'est avec ça qu'il faut qu'on joue, et avec de la drogue, bien évidemment. Et c'est vraiment ça qui fait l'énorme bascule.
Donc la drogue et les murs d'enceinte, quoi.
La drogue et le mur d'enceinte, ouais, c'est là que ça les révèle, en fait. Après, tu sais, il faut voir que tous les musiciens avec lesquels il joue, il est un petit peu plus vieux qu'eux. Il n'est pas non plus exempt de tout excès. Ouais. Mais eux, encore plus, puisque c'est un peu des. Ouais. Tu vois, ils sortent de l'adolescence.
C'est des chiens fous, quoi.
Ouais, exactement.
Est-ce que, justement, tu as quelques morceaux pour illustrer un peu cette. Est-ce que ça se rockise? Enfin, ça devient un peu plus rock ou ça se.
Bah, on peut mettre l'album Osmium. Voilà, oui. Sur Osmium, tu peux avoir des trucs qui sont très variés. En fait, Clinton, suite à une embrouille avec Revealot Records, où il avait enregistré avec The Parliaments, il a enregistré beaucoup de 45 tours, mais pas d'album. Ouais. Suite à une embrouille, il perd le nom The Parliaments, il n'a plus le droit de l'utiliser, mais il a quand même un groupe.
Il arrivera plus tard.
Voilà, il a quand même un groupe, et comme il a monté un groupe, un backing band, en fait, pour les Parliaments, et ben en fait quand les Parliaments vont quand The c'est compliqué comme histoire The Parliaments en fait va avoir en backing band ce qui va devenir Funkadelic plus tard.
Alors attends.
Donc à la base Funkadelic c'était
c'est le backing band, c'est le backing band qui parce que quand quand il comprend qu'il peut pas sur scène, il lui faut un backing band solide
parce que c'est que des chanteurs en fait The Parliaments.
Voilà. Et donc le backing band qui monte derrière, c'est celui dont je t'ai parlé, Billy Nelson, Eddie Hazel, Tiki Fleetwood et Mikey Atkins.
Mais donc eux c'est Funkadelic.
Eux pour l'instant ils sont rien, ils sont backing band de Parliament.
Mais ensuite, comme il a plus le droit d'utiliser le nom, il se dit Bah, on va faire un groupe avec les chanteurs à la fois de The Parliaments.
Voilà.
Le backing band de The Parliaments aussi, mais pour devenir funkadélique.
Alors attends, donc il a plus le droit d'utiliser le nom The Parliaments. Par contre, il garde tous les artistes du groupe.
Tous les artistes du groupe, mais ils sont signés.
C'est vraiment un truc de contrat, quoi.
Ah, c'est ça, c'est signé sous un autre nom. C'est pas la même musique, donc bah voilà.
Ok. Oui, donc c'est comme des artistes qui changent de nom pour faire autre chose.
Alors donc il sort avec le nom Parliament un album qui s'appelle Osmium, qui est vraiment très très influencé par les Beatles, etc. En tout cas, lui, c'est pas du tout un album de pop anglaise comme on peut l'imaginer des Beatles, mais il lui dit qu'il a été vraiment Sgt Pepper, ça a été vraiment le truc qui l'a fait. D'ailleurs, sur la clé, il y a un morceau qui s'appelle Sgt Pepper, Lonely Hearts Band.
Qui est une reprise.
Exactement, à la sauce funkadelic, je crois, à l'époque.
Ça date de quelle année, t'as une idée?
De Parliament, ouais. On doit être en 68, je crois, 68-69.
On peut s'écouter. Vas-y, tu veux qu'on s'écoute ça?
Allez.
1. Ouais.
C'est un truc qui est ressorti des Parliament très très tard en fait. C'est des bandes machin. Alors il paraît, selon la légende, que les Parliament ont enregistré à l'époque l'album Sgt Pepper Lonely Hearts Band des Beatles à leur sauce. Mais que pour pas mettre une pièce dans la machine à embrouille, c'est resté dans sur bande. Mais en tout cas, tu vois, il y a un témoignage de ça qui existe. Ça, c'est un 45 tours, en fait, avec, ça s'appelle juste Tech 3 et Tech 5, je crois, un truc comme ça, où ils se sont dit, bon, c'est les meilleures prises.
On disait, donc, The Parliaments, il peut plus l'utiliser. Donc, il utilise le backing band et les chanteurs de The Parliaments pour créer Funkadelic. Là, t'as évoqué Osmium, qui est un album de Parliament, parce qu'en fait, il va faire renaître d'une certaine manière The Parliaments, mais sous le nom Parliament. Mais il y a eu, avant des sorties Funkadelic.
On n'est plus sur du doo-wop, là.
On n'est plus sur du doo-wop.
On est sur quelque chose où il est en train de tester un peu le taf en studio, de voir un peu comment ça se passe. Il y a vraiment, c'est un album très disparate que moi j'aime bien, mais il y a des trucs vraiment très très bizarres, quoi. Je crois qu'il y a le morceau Breakdown dessus.
Bon, on s'écoute alors un extrait de Breakdown. C'est sur Osmium, c'est ça?
C'est sur Osmium.
Et là on est chez Parliament.
Ouais. The Parliament.
Ils ont déjà plus le droit d'utiliser The Parliament. Ils créent Funkadelic, ils sortent des trucs avec Funkadelic, mais ensuite ils se disent, ça me suffit pas Funkadelic, il faut aussi que je fasse un Parliament tout court.
Mais c'est quoi la différence avec, entre Funkadelic et Parliament?
Ah bah tu vas la voir après.
Ah, c'est au niveau du fond.
Ouais, ouais.
D'accord.
On écoute Parliament Breakdown. Bon ça. Et alors là, on voit qu'on passe du doo-wop à une recette funk.
Ouais, clairement. Ceci dit, l'album est beaucoup plus varié que ça, en fait. Ouais. T'as des choses un peu hippie, parce qu'à l'époque, il travaille aussi avec une chanteuse qui s'appelle Ruth Copeland, qui est la femme du patron sur lequel il signe cet album. Mm-hmm. J'ai oublié le titre, j'ai oublié le label, mais c'est pas grave, qui est Jeffrey Bowen. Et donc, en fait, il travaille un peu avec elle, et d'ailleurs, Funkadelic va servir de backing band pour ses deux albums. Elle va faire deux albums solo. Et donc, en parallèle de ça, Clinton au fait aussi signe avec un label de Détroit qui s'appelle Westbound Records, et il signe Funkadelic là-dessus.
T'as vu le bordel déjà ça commençait?
C'est un merdier.
Ouais.
C'est fou. C'était la norme dans cette industrie, ou c'est aussi que Clinton, il s'éparpillait?
Bon, alors si c'était la norme, je sais pas. En tout cas, c'est que Clinton, il peut-être pas qu'il s'éparpillait, mais il sentait qu'il avait trop de choses, à mon avis, trop de matière. Tu vois, que ça pouvait partir dans tous les sens, parce que l'album qui sort en 70 s'appelle Funkadelic. tout court. Et là, on est sur un peu des jams un peu enfumés. On sent que le LSD, il est passé par là. On est sur quelque chose de plus funk. Hein. Ça commence à s'affirmer, mais ça reste bluesy, boueux.
Parce que ce qu'il faut dire, et on va peut-être l'illustrer avec un extrait sonore, c'est que si on veut parler de manière un peu vulgaire, un peu schématique, au fur et à mesure de la carrière de Parliament of Funkadelic, qui sont donc deux groupes avec des noms différents, mais avec quasiment les toujours gens. Les mêmes personnes...
Ouais.
Qui, en fait, avec le temps, le son va quasiment fusionner. On saura plus qui est qui, etc. Le son va, d'ailleurs, plus du côté de Parliament. Oui. Funkadelic va un peu perdre son identité originelle. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que Funkadelic, c'est un peu le pendant rock, hendrixien, plus délirant, plus ça. Expérimental de Parliament.
Un peu plus agressif.
Plus agressif. Ouais,
ouais. Mais là, Parliament, en fait, il sort donc Osmium. En fin de compte, il s'appelle Remium quand il sort.
Okay. Les mecs sont...
Mais il va ressortir quand il va ressortir plusieurs années plus tard avec des bonus qui n'étaient pas dessus, des 45 tout ça, là il va s'appeler Osmium.
Tu sais ce que je te propose, parce qu'on est à peu près dans cette époque là, là on est autour des années 70, enfin du tout début 70, on a écouté un extrait de ce qu'était Parliament à ce moment là, passons directement 71 Maggot Brain Funkadelic, parce que c'est l'un des premiers albums et surtout le morceau titre Maggot Brain qui va marquer les esprits, pas forcément être un succès commercial, mais il y a un truc qui commence à se passer et en plus on voit un peu l'esthétique différente que peut avoir Funkadelic, si tu es d'accord.
Ouais. Alors c'est le troisième album de Funkadelic. Ouais. Il y a Funkadelic, ensuite il y a Free Your Mind and Your Ass Will Follow qui est enregistré sous acide en une journée, et ensuite il y a Maggot Brain. L'histoire de Funkadelic est très compliquée en fait. Par exemple sur le premier Funkadelic, comme Clinton doit avancer quand même sur ce groupe, mais il s'embrouille avec des musiciens qui claquent la porte souvent pour des histoires d'argent, puis qui reviennent, etc. Donc il fait appel à des musiciens session. Par exemple on a Denis Coffey, parce qu'il est à Détroit quand il enregistre ça, donc Denis Coffey qui a été énormément samplé avec Scorpio joue dessus. Voilà. Donc en fait l'album sort sur le nom de Funkadelic, mais dans les faits c'est pas le groupe, c'est pas ces cinq là qui jouent dessus.
En fait c'est jamais le groupe au final.
C'est pas ces cinq là. Après à partir de Free Your Mind c'est vraiment eux.
Est-ce qu'il n'y a pas à tirer comme enseignement de cette histoire que d'une certaine manière on est dans une musique qui tient un peu comme tu sais dans les séries, on parle des showrunners, tu sais, d'un mec en fait. Après il peut y avoir des écrivains, enfin des mecs qui vont écrire, scripter, etc. en plus, mais t'as une espèce de tête. Et George Clinton d'une certaine manière c'est un peu ça, c'est il mène tout ça à la baguette, c'est lui l'esprit. Les idées, etc. Et ensuite, il pioche dans tout ce qui est autour de lui pour concrétiser ses idées.
Ça va être ça de plus en plus, mais il y a aussi qui s'inspire beaucoup de ce que les autres peuvent apporter quand même. Ouais. C'est-à-dire que Clinton, ouais. Il a quand même ce talent d'être un formidable agrégateur de talents, et c'est surtout de savoir quoi en faire en fait. Ouais. De toute une masse d'un jam et tout ça, et ben il va arriver à sortir que les cuivres c'est intéressant, ça faut peut-être le mettre moins, ça on peut le garder pour une autre fois, etc. Il a quand même ce talent-là. Et donc Maggot Brain, c'est le troisième album de Funkadelic, où là vraiment c'est il est très funk rock cet album, et c'est vraiment là on a vraiment un vrai groupe qui joue. Ouais. Ils arrivent vraiment au bout d'un truc, enfin au sommet d'un truc, et c'est là qu'il va ce Funkadelic original va exploser en fait.
Allez, on s'écoute un extrait de Maggot Brain.
Ah, les morceaux de 10 minutes.
Ça va être 10 minutes 19. Hein. Bon voilà, là on est dans l'esprit planant, et évidemment, la guitare.
C'est Dire Straits.
Plus délirant, j'avance un peu. Donc le morceau, c'est 10 minutes de solo. Alors, c'est à la base, c'est une espèce de jam sur scène en live de Eddie Hazel.
C'est un truc de studio. C'est un truc.
Oui, mais enfin, parce qu'il était enregistré là. Mais si je dis pas de bêtises, Maggot Brain, c'est né sur scène, non?
Non, c'est né vraiment en studio.
J'ai mal compris. Okay.
Ce qui est fou, c'est que en fait, Maggot Brain, ce morceau, l'album est excellent, vraiment excellent. Mais Maggot Brain vampirise tout. En fait, c'est-à-dire que tout cet album, il est presque réduit à ce morceau parce que Clinton, c'est un morceau qui est toujours joué sur scène, tout le temps, Ça, Cosmic Slop, ça fait partie des morceaux qui sont toujours joués sur scène.
Pour les guitaristes, c'est considéré comme l'un des plus grands morceaux instrumentaux de guitare de l'histoire.
Il est régulièrement classé dans les plus grands solos, les machins, les trucs. La pochette aussi, où c'est une femme qui est enterrée jusqu'au cou et qui hurle.
Pochette qui rappelle celle de Redman.
Ouais, exact.
Oui.
There is a dark side.
Ouais, non, mais parce que tu vois, t'écoutes Redman, tu vois la pochette, tu vois, la pochette est marrante, et là tu vois Funkadelic 20 ans avant, tu fais, ah bah d'accord.
Ça avait été déjà fait. Tu penses que, tu parlais du morceau Hit It and Quit It, ouais. C'est peut-être un peu plus représentatif du reste de l'album.
Ouais, carrément.
Bah, un extrait très court, allez rapidement.
Très rock encore, hein.
Complètement, mais c'est justement l'identité un peu de Funkadelic, à l'inverse de Parliament, qui est très marquée par le rock en fait. C'est assez étonnant.
Parce que moi j'attendais du Moog, tu vois, des trucs un
mais
peu...
ça arrive
pas
après
encore, pas encore. Mais tu fais bien de le dire parce que en fait ce qui va arriver, c'est que là on a il est là depuis le premier album, mais en pointillé. Puis après, sur Fireman in Your Sweet Fallow, il s'impose. Et là, en fait, après, il va pas arrêter de s'imposer, qui est Bernie Worrell, qui est le clavier, qui va devenir le clavier, l'arrangeur, la clé de voûte de tout le P-Funk, en fait. C'est vraiment, c'est le personnage le plus discret. Et pourtant, c'est lui qui fait tenir tout l'édifice. Alors, Bernie Worrell, faut savoir, c'est quelqu'un qui est né avec l'oreille absolue. Et en fait, depuis l'âge de 4 ans, il se produit en concert et tout ça, machin. Ouais, il a fait des écoles de musique.
Prodige, quoi,
ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Il est dans une école de musique, je sais plus laquelle. Il est non seulement le seul noir, mais il est en plus le meilleur de tous, quoi. Mm. Et très tôt, il se met à jouer, à accompagner, mais tout un tas de trucs de gens différents. Il joue dans des synagogues, il joue dans des trucs de musique latine. Enfin, tu vois. Et en plus, il étudie le classique à côté de ça. Donc, ouais. Bernie, il bouffe tout ça. Et en fait, quand Clinton le rappelle pour vraiment intégrer Funkadelic, il est parti en tournée avec une chanteuse de soul qui s'appelle Maxine Brown. Il est aux Bahamas, je crois. Mmh. Et en fait, Clinton le rappelle et lui, il s'ennuie, en fait, tu vois. Ouais. Alors que les gens, peut-être qu'il y en a un qui adorerait être à sa place, et lui, il s'ennuie. Et donc, il rejoint Clinton et c'est là qu'il prend prendre toute sa dimension, quoi. Parce qu'il a cette facilité, ce don, en fin de compte, à faire tenir ensemble des trucs qui vont pas ensemble, quoi. C'est-à-dire, à mettre sur du funk un truc qui te rappelle un peu quelque chose qui est classique, mais qui l'est pas, quoi.
Là, on commence à entrer dans une ère où il y a clairement Funkadelic, Parliament qui ont pas le même son, et surtout une ère de productivité absolument intense, puisque c'est un voire plus albums par an.
Alors là, en fait, le truc, c'est que Clinton, il comme Funkadelic, le Funkadelic original a un peu explosé, mais toute l'histoire de Funkadelic et de Clinton, ils vont tous faire des allers-retours. En fait. Personne va jamais vraiment s'en aller, même Billy Nelson, avec qui il est très très brouillé, il va toujours revenir à un moment pour faire une pige, pour faire un truc. Ils vont toujours revenir. Et en fait, à la suite de ça, il décide de changer un peu de concept et il part à Toronto pour enregistrer un double album qui s'appelle America It It's Young. Et là, c'est un double album. Et donc là, il amène des cuivres, il amène des cordes, il amène 3 batteurs, 4 bassistes. Enfin, il amène pas tous en même temps. Mais ce que je veux dire, c'est que avoir des couleurs différentes, il prend pas toujours les mêmes personnes, quoi.
C'est un chef d'orchestre, quoi, le mec.
Ouais, là, il y a des. Tu vois, America It It's Young, c'est quand même un album encore charnière. Ouais. C'est-à-dire que tu sens qu'il est encore un peu dans le funkadelic, mais de tes premières heures, mais qu'il veut encore aller vers autre chose. C'est encore un peu entre les deux, en fait.
Bah, de toute façon, là on va avancer un peu dans le temps, mais donc cette surproductivité, Funkadelic va mettre un peu de temps Parce que là encore, parce que là, on parle de trucs qui ont marqué l'histoire, etc., mais qui sur le moment sont pas des succès fous. Il n'y a pas encore disque d'or, machin, etc. Il n'y a même pas de reconnaissance encore réellement du milieu. Les médias n'en parlent pas, etc. Il n'y a rien qui se passe, entre guillemets, publiquement encore.
Funkadelic, c'est un peu un truc, c'est un peu. Ouais, ça fait un peu peur, tu vois, malgré tout. C'est quand même un son un peu brut. Alors, dans America et It's Young, il y a des choses qui peuvent plus s'écouter un peu plus facilement. Il y a Boutique qui est arrivé, donc on a des trucs un peu plus groovy, si on peut appeler ça comme ça. Il y a moins ce côté...
T'as un exemple de morceau un peu plus brut, funkadélique, que t'aurais dans ta liste, éventuellement ou
Mais le truc s'appelle Piste 2.
Piste 2.
Ouais. Alors par contre, c'est un truc qui a été enregistré bien après. Hein. Okay. Est-ce que ça compte ou pas?
Ouais, allez, vas-y, vas-y. Mais ça 76, ça va. Ça va.
Ouais.
Allez. C'est sur du funk, on est sur du funkadelic là.
Ouais. C'est un live.
C'est un live.
Ouais.
C'est horriblement mal enregistré, évidemment. Ouais. Mais
si tu veux aller plus loin, tu vas voir comment
c'est. Vrai. Tu vois ? Oui, bon, c'est du rock.
Ah ben là, pourtant, là, on est en 76. C'est un live pirate qui a été enregistré à Denver. Et là, c'est funkadelic, en fait. Mais t'as quand même les cuivres de Parliament qui arrivent derrière un petit peu pour backer un peu le truc. Mais ça reste hyper agressif.
Eh ben, arrivons justement à cette histoire de cuivre de Parliament et en fait d'évolution. Parce que le premier groupe qui va commencer vraiment à faire parler de lui entre Parliament et funkadelic et qui va rencontrer le succès, c'est Parliament.
Alors, il signe Parliament chez Casablanca Records, qui est le label d'un cinglé comme lui, en fin de compte. Il s'appelle Neil Bogart. Casablanca, ça va être le label de Kiss, ça va être le label de Donna Summer, période vraiment I Feel Love et tout ça, donc vraiment grosse vente. Et il tombe sur un ouf comme lui, qui lui fait confiance et qui le suit dans tous ses projets, en fait. Qui est complètement coqué comme lui, quoi. Mais bon, voilà, il fallait qu'il se retrouve. Tu vois, Clinton, il faut toujours qu'il trouve un mec dans son délire, sinon ça va, c'est pas possible, quoi. Donc il sort d'abord un premier album de Parliament, qui est... je le trouve bien, il y a des gros trucs dessus, il y a notamment I Wanna Testify, le premier morceau des Parliament qui est refait funky par Bernie Worrell, justement, avec du clavinet et tout. Mais tu vois, il n'y a pas encore le truc...
C'est un truc d'ailleurs, pardon, je t'interromps, mais qui reviendra tout le temps dans la carrière de ces groupes et de George Clinton, c'est qu'ils réinterprètent sans cesse leurs morceaux. Ils en ont écrit un, et puis 2 ans après, ils en font une nouvelle version, puis ils la font encore évoluer, tout le temps.
Le morceau qu'on a écouté, là, le morceau du live, c'est Red Hot Mama, qui originellement est sur Osmium.
Bah, tu sais quoi
Ensuite, tu le retrouves sur l'album de Funkadelic, Standing on the Verge of Gayland, et qu'ensuite, après, tu retrouves dans 10 000 versions différentes... live.
Un exemple d'As, tu vas voir, qui est extrêmement parlant. Donc effectivement, 70 chez Parliament. Donc là, on est chez Parliament. On a Red Hot Mama qui ressemble à ça. Tu vas voir. Et ensuite, on a 3 ans plus tard, 74, ce même morceau complètement réinterprété chez Funkadelic cette fois.
Ah oui, ok. Red Hot Mama looking to the city.
She dances in big ten spindles. She's been grieving. Alors tu vois, on avait un truc complètement crado avant, beaucoup plus rock. Chez Parliament, ce qui est complètement
c'est
d'ailleurs
bizarre,
ce qui n'a aucun sens.
Là, c'est Funkadelic qui fait la version plus.
Mais parce que le premier Parliament, Osmium, c'est vraiment un truc hybride. Ouais. Il y en a un peu dans tous les sens. Tu sens qu'il est en train de s'amuser. Il tente des trucs. Voilà, il y a des morceaux comme je disais complètement hippie. Il y a un morceau qui s'appelle Living the Life où ça, le cœur, c'est un truc limite de Krishna. Jesus was living the life. Tu vois, enfin un truc exalté comme ça. Alors là, on a sauté quelques années, oui, mais c'est pas grave. Mais c'est juste au moment où il enregistre ce morceau là, Red Hot Mama pour Standing on the Verge. En fait, le truc c'est que Parliament et Funk Addict tournent énormément à l'année. Et donc Clinton a établi des bases comme ça, des studios sur lesquels il a sa préférence quand ils sont en tournée pour aller enregistrer. Et quand ils sont sur la côte ouest, il va à Hollywood Sound, qui est un studio à l'époque qui est réputé pour plutôt de la country, un truc comme ça. Et l'ingénieur du son, qui est là à l'époque, Jimmy Callon, a c'est ouf de booker, et il dit quand même à un de ses assistants ou de ses adjoints, enfin des studios, il dit quand même, reste un petit peu avec moi parce qu'ils me font un petit peu peur, quoi. Et en fait, ce soir-là, ils enregistraient Don Mama et Standing on the Verge, et le mec se fait fracasser sur place, et il devient leur ingé son attitré de la côte ouest.
Parce que ça, c'est vrai que c'est aussi c'est une géographie aussi, le P-Funk et George Clinton, de là où ça se passe, de Détroit. Tu parles de Los Angeles, enfin de la côte ouest. Il y a aussi Toronto que t'as évoqué. Et en fait, et puis ils vont commencer même toujours dans cette idée presque de s'industrialiser, ou en tout cas de faire une espèce de grande galaxie qu'on va appeler P-Funk d'ailleurs dans le futur. De dire, à tel endroit on fera ça. Et puis dans tel studio on a tel mec qui peut apporter ça, et donc on fera ça. Et moi je suis en tournée, alors l'autre il peut peut-être enregistrer à Detroit. Et ça va comme ça créer une espèce de galaxie.
Globalement, c'est Détroit pour les enregistrements, avec Jim Vitti à United Sound Studio, et les arrangements et un petit peu le taf derrière, c'est à Hollywood Sound avec Jimmy Callon. Globalement, mais après, il y a des trucs qui sont enregistrés un peu partout. Je sais plus sur quel album c'est, où il y a un titre qui a été enregistré en Angleterre. Parce qu'ils ont fait une tournée en Angleterre aussi, qui a été un bon délire aussi. Ça, je laisse les gens.
On va passer à la partie vraiment succès. On va parler évidemment de Mothership Connection. Mais juste avant, parce que ça va être le premier succès en fait réel, disque d'or, etc. Mais juste avant, même s'il n'y a pas encore le succès public, on sait qu'on comprend que la recette musicale s'affine petit à petit. Mais il y a une autre recette qui s'affine petit à petit. Elle est liée à la scène. C'est une esthétique, c'est des vêtements. Parce que ça, c'est une part extrêmement importante en réalité aussi de Parliament Funkadelic.
Ah oui, c'est-à-dire que c'est habillé comme ils le sentent en fait. Donc t'as ça sur YouTube dans les années, c'est un truc des années début des années 70. Je sais plus dans quelle émission ils sont, et en fait ils font des morceaux en live du premier album de Funkadelic, quoi. Et c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Il y en a un, je crois, qui est habillé en grand dragon du Ku Klux Klan. Clinton, il a un Iroquois, il est habillé avec un truc violet. N'importe quoi. Et c'est ça, en fait, sur scène, c'est toujours cette espèce d'exubérance à s'habiller comme ils veulent. Du coup, c'est pour ça que ça fait un choc quand Maceo Parker et Fred Wesley arrivent.
Très classe, voilà. Costume.
Par contre, ils arrivent dans l'orbite de Clinton par l'intermédiaire de Bootsy. Et en fait, eux qui ont été toujours habitués à un truc militaire, il fallait que les chaussures soient cirées et tout, machin, ouais, ils tombent dans une dimension bis quand ils voient qu'on a le droit de s'habiller comme on veut, et plus on fait n'importe quoi, mieux c'est, quoi.
Ouais, c'est-à-dire que George Clinton, Bootsy, ils sont toujours sur des trucs à plateforme,
ouais, talons,
absolument
des
énormes. Il y a je ne sais plus qui est toujours avec sa couche signature. C'est-à-dire qu'il
ça, c'est Gary Scheider.
C'est Gary Scheider. En couche.
Toujours en couche.
Il a juste une couche sur lui, puis voilà, tous les concerts. Enfin, c'est complètement délire.
Ouais, il y en a qui arrivent habillés en militaire, donc en dragon du Ku Klux Klan aussi, en indien. Enfin, c'est n'importe quoi. Dans le bouquin, mais dans le bouquin, j'ai trouvé des coupures de presse de l'époque où les gens, les journalistes qui assistent au concert hallucinent complètement de voir comment ils sont habillés, quoi.
Alors après, genre, c'est un sujet, quoi.
C'est un sujet. Si tu veux, en fait, tu peux pas passer au-delà, quoi. Parce que Clinton est tellement possédé à la grande époque de Funkadelic qu'il a le crâne rasé, mais il s'est laissé des bites en cheveux. Il nage le crawl sur le sol, enfin tu vois, des trucs complètement délirants, quoi. Il finit à poil, enfin des trucs incroyables.
Ouais, parce que c'est un truc qu'on n'a pas encore évoqué sur les paroles, etc. C'est-à-dire que de plus en plus, à l'origine, on est sur des propos, même parfois un peu politiques ou sociaux, ça peut arriver.
C'est plus funkadélique, ça.
Plus funkadélique. Ouais. De plus en plus, ils vont devenir, il était déjà certainement, mais complètement obsédé par le sexe. Et puis, on va même avoir toutes des périodes où, en fait, il n'y a même plus réellement de paroles, c'est des interjections, c'est le funk devient, en fait, un emblème en tant que tel, c'est bouge-toi, fais du funk, danse, ne fake pas le funk, etc. Et c'est juste des interjections comme ça, et ça devient ça aussi.
Alors, Parliament, il y a une continuité dans la narration d'une histoire, mais Funkadelic, par exemple, l'album Standing on the Verge of Gillyland, ça ne parle que de sexe. Et des trucs qui passeraient plus maintenant, parce que y a un morceau qui s'appelle Jimmy Got a Little Bitch in Him. Voilà. Donc en fait, il se moque du mec parce qu'il est un petit peu efféminé, etc. Donc ça, tu pourrais plus voir ça, quoi.
Bien sûr.
Il y a un autre morceau où en fait, il dit Won't you be my dog and I'll be your tree and you can pee on me. Tu vois, des choses comme ça. Tu vois, c'est que ça. Ça tourne que autour de ça, quoi.
Pourquoi cette obsession?
Et tu sais, funk, ça veut dire en fait une odeur un peu qui sent pas bon, quoi. Donc, et puis le funk, ça a toujours été une musique un peu.
C'est crado, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Ça a toujours été un peu sexuel. Même après, quand ça a bougé dans les années 80, des trucs un peu plus langoureux, un peu moelleux, c'est un peu toujours ça, quand même, que ça évoque.
Ouais, mais lui, il va loin, parce qu'il avait en plus un côté un peu exhibe, effectivement, le George Clinton. Donc c'est,
ah oui, il y a de bonnes anecdotes dans le livre, ouais, par rapport à ça.
Il aurait été cancel, hein.
Ah, c'est probable.
À mort.
Après, enfin, c'est souvent ça avec des personnages comme ça. Non, au-delà de c'est l'époque, c'est génie indéniable, grand artiste indéniablement, salopard normal, au niveau du respect, du fric, etc. vis-à-vis des gens qui collaborent avec lui, qui participent à son succès. Effectivement, des comportements parfois bizarres, y compris d'ailleurs avec la drogue. Il a été arrêté plusieurs fois, etc. Il va y avoir un moment où il va commencer vraiment, tu le disais, il y a la montée, puis la descente, ça, ensuite. Ouais. Oui, pas personnage qu'on doit idéaliser, etc.
Oui, bah, un génie, quoi. Classique.
J'espère que tous les génies sont pas comme ça.
Malheureusement.
Non, mais on peut s'écouter un morceau qui s'appelle Together.
Ouais.
Ouais, pour passer à la suite.
Allez, il est dans ta liste ?
Ouais.
Eh bien, écoute, on est chez qui ? La Parliament, Funkadelic, on ne s'y retrouve plus.
Parliament.
Chez Parliament, c'est Together.
Ah. Ok.
Riff de basse derrière là.
Voilà, c'est ça que j'attendais. Ok, très bien.
Bon, on retrouve encore les harmonies vocales.
Mais
très clairement.
Sur cet album, c'est incroyable. J'ai choisi ce morceau parce que vraiment, sur ce morceau, c'est incroyable. C'est extrait de Chocolate City, ouais. Deuxième album de Parliament. Et là, c'est là vraiment que se met en branle la machine à hit. George Clinton, Bernie Worrell, Bootsy Collins.
Alors, voilà, à la basse, on le sent, le Bootsy. Ouais. Hein.
Alors effectivement, après c'est toujours pareil, on sait jamais trop qui fait quoi, qui a eu l'idée au final, et puis qui l'a affiné, et puis qui a mis son nom derrière. Toujours est-il que c'est Bernie qui arrange, ça c'est indéniable. Et là, c'est vraiment, on sent vraiment qu'il est en train de se rapprocher d'un truc, mais parce que Parliament, tu vois, ça a ce côté tout de suite accessible. Tu vois, quand t'as mis le morceau, tu t'as fait ah, voilà. Alors qu'on t'aurait mis Free Your Mind, t'aurais dit ah, ça commence quand cette histoire. Et voilà, il y a vraiment ce truc là où Parliament, c'est accessible tout de suite, même si t'es pas, tu vois, il y a tout de suite un côté dansant, tout de suite un truc qui te prend. Tout ça, c'est hérité de toutes ces années de Motown, etc. Voilà, la science de l'arrangement, de la mélodie.
Et puis, de toute façon, le côté délirant, on le garde pour Funkadelic encore à ce moment-là, quoi.
Pour l'instant, ouais. Mais après arrive vraiment l'album où là, Clinton connaît le succès incroyable, c'est Mothership Connection.
Donc, il arrive juste après Chocolate City, limite la même année.
Juste derrière, ouais. Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que.
Puis, c'est n'importe quoi.
Voilà.
Il produit tellement.
C'est que parfois, tout est fait presque en même temps. Enfin, tous les albums sont faits en même temps. Il y a juste que. Je sais pas si c'est Clinton ou si c'est un taf de décision, tout le monde qui discute, etc. Je crois quand même que c'est plutôt Bernie, Bootsy, Clinton et en général d'armée, Gary Scheider derrière. Et voilà, ils discutent de ce qui va être retenu pour Funkadelic et pour
Parliament. En fait, c'est les mêmes sessions, quoi.
C'est les mêmes sessions. Ouais. C'est les mêmes sessions. Ça se fait toujours à United Sound.
Les mecs savent pas toujours, d'ailleurs, pour quel groupe ils vont enregistrer, où ça va être estampillé.
Non, mais il y a aussi que Clinton fait du collage. C'est-à-dire que, par exemple, les cuivres, Fred Wessler raconte dans son bouquin que, il jouait. Il leur demandait de jouer des riffs de cuivre comme ça. Et puis, il savait pas pourquoi ça allait être fait. Et après, tu vois, c'est ça la science aussi de ces mecs-là. Ouais. C'est de se dire, attends, il y a pas ce truc-là qu'on pourrait mettre avec ça, plutôt que ce que vous êtes en train de jouer là. Je pense que ça irait mieux, etc.
Ouais, c'est l'assemblage, quoi. Vraiment, ouais.
Tu l'as dit, juste après Chocolate City, Mothership Connection, premier énorme vraiment album qui va rencontrer le succès de Parliament et qui inaugure d'ailleurs trilogie d'albums où il commence à créer même une espèce de légende
jusqu'à la fin de Parliament.
Jusqu'à la fin de Parliament. Où en fait il crée des personnages fictifs autour du funk. Tu peux nous en parler d'ailleurs.
Voilà, c'est Starchild qui arrive en France. Mais non, les extraterrestres, ils arrivent toujours en Amérique, Independence Day quand même. Et il arrive donc en fait sur Terre pour délivrer les gens du mauvais funk, quoi, pour leur porter la bonne parole funk. Alors là, pour l'instant, Starchild arrive, donc on ne sait pas d'où il vient. On le saura après dans l'album qui suit, qui est The Clone of Dr. Funkenstein, où on comprendra qu'en fait c'est le Dr. Funkenstein qui est dans une galaxie encore plus lointaine et qui envoie Starchild.
Il sort le LSD là.
Voilà. Ensuite, après sur Funkadelic versus Placebo Syndrome, là en fait Starchild sera en fait combattu par Sir Nose, qui voudra, qui sera celui qui ne danse jamais, et qui, donc voilà, ils vont combattre tous les deux. C'est là que va s'inaugurer aussi le flashlight, le bob gun, qui sont les armes pour repousser le mauvais funk.
Et qui est évidemment un morceau flashlight, d'ailleurs qui est une vraie arme sur une piste de danse, effectivement, parce que là tu peux pas t'empêcher de danser. Sur
voilà. Ensuite, pareil, ça continuera sur.
Juste avant Moteur Booty à faire.
Il y a Moteur Booty à faire. Ensuite, j'ai l'autre. Et ensuite, il y a Trompipulation pour finir. Glory à la stupide. Voilà, Moteur Booty à faire. Moteur Booty à faire, donc toujours traqué par Sir Nose, ils sont obligés d'aller se réfugier sous l'eau. Donc le concept est aquatique. Non, mais ce qui est fou, c'est que en fait le truc, c'est que sur Mothership Connection, qui est peut-être mon album préféré, et sur Funk Intellective versus Placebo Syndrome, il y a des morceaux qui s'incluent pas forcément dans le concept. Tu vois qu'ils sont cool, mais tu dis bon, qu'est-ce que ça fait là quoi. Mothership Connection, tous les morceaux sont reliés par ce concept. Tu vois, où ils font la fête sous l'eau, Can Do My Thing Underwater, tout ça, Aqua Boogie, etc. Enfin, des morceaux de ouf, quoi, tu vois. Et l'album, quand l'album sort en vinyle, en fait, parce que là, Clinton, bon, on fait des petites digressions dans tous les sens, hein, mais
j'espère que c'est ce qu'on peut que vous arrivez à suivre, mais c'est la passion, on essaie de discuter.
Mais si tu veux, Clinton, en plus de séparer Funkadelic et Parliament, sépare aussi les identités visuelles des groupes. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a Pedro Bell qui dessine toutes les pochettes de Funkadelic. C'est un délire, hein, les pochettes de Pedro Bell. Hein. Il y a des trucs dans tous les sens. Enfin, vraiment.
Oui, sur une paire de fesses, quand même.
Ouais, non, mais c'est un artiste de malade. Tu vois, il invente des mots et tout. Tu vois, c'est des mots que rien qu'en les lisant, tu trouves ça drôle, en fait. Tu sais pas ce qu'il a voulu dire, mais tu trouves ça drôle par l'enchaînement de syllabes. Et pour Parliament, à partir de Moteur Booty à faire, il trouve Overton Lloyd qui va devenir aussi lui, et plus dans un délire à dessiner du comics un peu. Et donc pour Moteur Booty à faire, le disque, en fait, le vinyle se déplie en deux, et tu peux ça fait un pop-up, et tu peux détacher tous les petits personnages, Mr. Wiggles, etc. voilà, et tu peux les mettre vivre dans le décor.
Mais il y a un truc fou, c'est que j'ai appris dans le bouquin, j'avais pas idée. Alors on est plus tard, on est en 77, mais Mattel, la société qui produit des jouets, a à un moment pensé faire des poupées adaptées de l'univers P-Funk, du
Barbie, la reine de Charles Mattel, Shire, c'est Barbie, c'est tout ça.
Mais tout ça a changé, parce que George Clinton a sa figurine Funk Pop. Et il y a une petite figurine Bootsy aussi qui existe chez, je sais plus lesquelles, tu sais, c'est quelque chose Seven, là. C'est ceux qui font les figurines de Run DMC, d'Eric Byrne Rakim. Je sais pas si tu vois ce que c'est.
Non.
Bon, en fait, c'est des jouets pour papa qui sortent pas de la boîte.
C'est ce qu'on va faire, c'est parce qu'il y a une part quand même encore importante de ce podcast. Enfin, il va falloir qu'on parle absolument de l'influence que va avoir derrière George Clinton, parce que on va voir que son pic, c'est en gros toutes les années 70 sont marquées par Parliament Funkadelic et à partir
les prods.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Il va y avoir les prods ensuite derrière encore. Mais petit à petit, quand même, il va y avoir un déclin. Et en fait, il va se renouveler à travers des gens qui vont s'inspirer de lui et lui qui va participer à plein de prods, effectivement. Mais on parle quand même là de cette espèce de summum qu'il va atteindre, en tout cas en termes de réception publique, avec entamé par Mothership Connection, avec 3-4 albums derrière, quelques morceaux iconiques qu'on peut s'écouter. Je pense qu'on est obligé de mettre P-Funk Want to Get Funked Up. Je pense. Ou alors Give Up the Funk, peut-être. Enfin, qu'est-ce que t'en penses?
Les deux me vont.
Les deux, allez.
Ouais. Bon, allez, à des extra rapidos. Donc, ils sont sur Mothership Connection qui arrive en 75. Et normalement, ça va vous parler. Attempt to adjust your radio. There is nothing wrong. We have taken control as to bring you this special show. We will return it to you as soon as you are grooved.
Chronique.
A welcome to station WEFUNK, better known as We Funk. Or deeper still, the Mothership Connection, home of the extraterrestrial brothers, dealers of funky music, P-Funk, uncut funk, the bomb.
Coming to you directly from the Mothership, top of the chocolate Milky Way, 500,000 kilowatts of P-Funk power. So kick back, dig, while we do it to you in your eardrums.
Allez, je vais voir ça un peu.
Now this is what I want y'all to dig. So groovy that I dig me.
Ces intros. Et alors, c'est bon ça déjà. Et alors le tube absolu qu'il y a sur cet album, sur Mothership Connection, c'est évidemment Give Up the Funk. Et ça donne ça. Tether loop off, we're gonna tether loop off the mother sucker. Tether loop off the sucker. Tether loop off, we're gonna tether loop off the mother sucker. Tether loop off the sucker. Tether loop off, we're gonna tether loop off the mother sucker. Tether loop off the sucker. Tether loop off, we're gonna tether loop off the mother sucker. Tether loop off the sucker.
J'ai l'impression qu'on est tellement loin de
ce qu'on a écouté avant.
Ouais, ouais, c'est fou. Ouais. Hein.
Mais ce que j'aime bien, c'est que à la fois on est loin et en même temps, alors là on a essayé de l'exprimer rapidement dans le podcast, mais il disait le bouquin. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté la discographie au fur et à mesure. À chaque fois que tu parlais un truc, je l'écoutais.
Mais tu vois, t'as, t'as vu qu'il y a un QR code.
Je l'ai vu, mais c'est pour Deezer. Je n'utilise pas Deezer.
Ah, alors tu veux que je t'explique pourquoi ?
Ouais.
Pourquoi j'ai mis Deezer ? Au début, j'ai mis Spotify parce que ouais. j'aime bien le code, tu sais, le code Spotify là. Ouais. Et en fait, je me suis aperçu qu'il manquait toute une période funkadélique qui sont les albums Warner.
J'ai dû aller sur YouTube.
Voilà.
Pour écouter ça.
Et je me suis dit, mais pourquoi il y a pas ça en fait ? Et du coup, j'ai recommencé la même playlist sur Deezer parce que ils y sont. Alors après, il faut savoir que toute la période, parce que Clinton va signer un moment funkadélique chez Warner pour avoir plus de budget, etc. Machin, il va quitter son label Westbound historique. Et là, c'est le début des graves emmerdes. Donc c'est peut-être pour ça que les Warner sont pas sur. Voilà. Mais bon, il y a toute une période là-dessus dans le bouquin
droit,
que je laisse. Mais c'est une.
Mais en tout cas, c'est ce que tu disais. On en est tellement loin. En fait, quand on écoute la musique, quand on suit
et
un peu l'évolution,
on
comprend pourquoi, ouais. comment, que effectivement la recette s'affine et que aussi il y a une volonté après avoir pas mal déliré quand même sur leurs albums, d'être un peu plus grand public. Je crois qu'il y a une vraie volonté chez eux, en tout cas chez George Clinton, de faire danser les gens.
En tout cas, Mothership Connection, ça allie les deux. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc, on n'a pas besoin d'être un grand fan de funk, tu vois, ça part et tout de suite tu te sens un peu dedans. Et pourtant, quand tu l'écoutes, c'est hyper novateur. T'as encore cette science de l'arrangement des voix qui est magnifique. Tu vois, le groove, les parties de basse de Booty, laisse tomber. Ça correspond quand même à une période aussi là où Clinton, c'est une montée en flèche qui correspond au déclin de James Brown en fait. Hein. Ouais. Là, Diamond, ça va être moins, il va lâcher la rampe. Et en fait, là, Clinton va produire aussi énormément de groupes satellites. Il va produire Bootsy, qui va devenir la première star solo,
du, groupe,
ouais,
hein, Collins,
solo du P-Funk. Il va produire des groupes de filles. Il va d'abord produire Parlette sur Casablanca. Il va signer le Brides of Funkenstein, mais sur Atlantique.
Et d'ailleurs, souvent, les groupes de femmes, je sais pas si ça exprime un fond de misogynie, mais c'est des marionnettes, quand même, souvent. C'est-à-dire que c'est toute la galaxie P-Funk qui écrivent derrière, puis juste on les fait chanter. Puis voilà,
en fait, le truc, c'est
qu'elles touchent juste de l'argent sur la session.
Il y a énormément de trucs qui sont enregistrés tout le temps. Et en fait, Gary Scheider est très impliqué dans le travail des filles, tout comme Sidney Barnes, dont on parlait au départ, qui a fait venir Clinton chez Joe Bett. Sidney Barnes, c'est son grand ami encore maintenant. Vraiment, c'est quelqu'un qui a été toujours là, mais dans l'ombre. Tu vois, ça fait partie de ces gens qui ont permis au P-Funk d'avoir une base arrière solide. Mmh. Et eux ont énormément travaillé avec les filles, et c'est souvent les albums de filles, pour le premier Parlette et aussi pour le premier Bride, dans ce qui existait déjà, et de se dire bah voilà, ça pourrait être cool pour les filles, et les filles elles viennent, elles mettent un petit peu de sexe là, enfin tu vois, un truc un peu plus sexy. T'écoutes Disco To Go des Brides of Funkenstein, c'est magnifique quoi, tu vois. Par contre, elles sont payées à la session, donc c'est à dire qu'elles touchent un
petit touche pas de droit sur les ventes,
voilà, dégueulasse.
Ouais, il y a des belles carottes quand même. Et il va également produire Fred Wesley and the Horny Horns, signé chez Atlantic aussi.
Je connaissais même pas, alors je connaissais Fred Wesley exactement, ouais. Mais pas ce groupe.
Ah ouais. Pourtant
j'ai écouté le premier album qui est trop bien.
Bah, Fred Wesley actuellement encore sur scène fait toujours un morceau qui s'appelle Foreplay,
ouais.
Et qui est sur le premier album des Horny Horns. Il va aussi produire un album solo pour Eddie Hazel, son guitariste, qui a pas arrêté de faire des allers-retours sur Funkadelic, qui a eu des problèmes de drogue, qui sort de prison pour une super histoire encore que j'incite les gens à aller lire. Voilà, donc il va faire cet album solo qui est vraiment un ovni, mais ce sera un ovni comme lui en fin de compte quoi, c'est-à-dire que c'est un ovni inconstant du P-Funk, mais son album solo
parce qu'on utilise le terme P-Funk depuis tout à l'heure. En fait, c'est là où il commence à prendre du sens, le terme P-Funk,
c'est sur Mothership Connection que le terme est employé la première fois.
Sur le premier morceau, j'ai utilisé le terme P-Funk, et ensuite ça va devenir ce qui va désigner justement, comme tu disais, toute cette galaxie de groupes satellites, de personnages qui gravitent autour de ça, etc., et qui en fait une unité quand même commune, une esthétique commune quoi.
Mais le P, c'est le P de Parliament ou
Pure Uncut Funk.
Ah, c'est juste ça. Ouais.
Mais après, certains disent que c'est pour Parliament Funkadelic, P-Funk, tu peux y mettre un peu tout ce que tu veux derrière.
Oui, le P-Funk, ça veut dire Pyro Funk, c'est le funk des gangsters de Compton.
Ah oui.
Eh oui, les Bloods.
Ouais, il y a quand même un.
Bah, c'est un truc officiel, il le dit dans le morceau.
Ça, hein. C'est vrai.
Uncut Funk de Bomb. Ouais. C'est une période où ils sont à fond dans la coke.
Il faut préciser.
Ouais. Donc, non, mais voilà. Donc, pure uncut, tu comprends peut-être.
Oui, d'accord.
Effectivement. ce qu'on fait, c'est pour clôturer cette partie succès de Parliament et ensuite parler rapidement de Funkadelic, qui va connaître aussi lui-même son propre succès. Encore un ou deux morceaux iconiques, faut mettre Flashlight, je sais pas si t'es d'accord.
Ouais.
Et ça arrive 2 ans après, parce qu'on était en 75 avec Mothership Connection, c'est ça? Oui, 75. 76, un autre album entre les deux.
Dr. Funkenstein. Ouais.
77, un encore après, Funkentlechi versus The Placebo Syndrome. C'est imprononçable en plus.
Ouais.
et dessus, il y a effectivement ce qui est probablement après We Want the Funk, là, enfin après Tear the Roof of the. Comment c'est quoi? J'arrive jamais à ce.
Tear the Roof of the Sucker.
Tear the Roof of the Sucker. Eh bien, il y a Flashlight, et là, pareil, monstrueux. Il y a une petite histoire sympa sur les Moog en plus de Bernie Worrell, tu nous racontes après. C'est ça qui est intéressant, c'est que je vais avancer un peu dans le morceau parce que ça reste, c'est tubesque, mais il y a encore des formes de liberté prises dans l'écriture, dans l'arrangement, etc. C'est pas juste du tube pop.
Et ça s'inclut dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est à la fin, le dernier morceau où il repousse Sir Nose, qui est le méchant, avec le Flashlight.
J'avance un peu dans le morceau.
Mais là, t'as tous les albums de Rap West Coast de 91, 12, 13, 14.
Mais ce qu'on se rend pas compte.
En 77.
Tu vois, c'est que ce qu'on se rend peut-être pas compte par rapport à la révolution que c'est Flashlight, c'est que en fait, Bernie Worrell, en mettant des Moog en série, comme ça, 3 ou 4, je crois.
Donc il a pris le mini Moog qui crée ce fameux son de basse là qu'on a retrouvé partout.
Il joue la ligne de basse au clavier, en fait. Et c'est ça qui va révolutionner c'est ce qui va être le socle du gangster rap, du G-funk, plutôt, ouais, enfin, tu vois.
Ouais. Parce que le mini Moog est sorti quand même pas mal d'années avant. Il a déjà été utilisé par plein de musiciens. Mais c'est vrai que dans le funk, pour faire office de basse, c'est pas encore très fait. Et Flashlight va marquer les gens.
C'est ça.
Ensuite,
ouais,
ça va
être
réutilisé à fond.
C'est pour ça quand je te dis que c'est le personnage le plus discret du P-funk et malgré ça, la clé de voûte, c'est que Bernie Worrell, personne, tu vois, son nom n'est pas réellement identifié par le public, alors que l'impact qu'il a eu sur la musique du XXe siècle, elle est énorme.
Tu parlais de référence rap, évidemment. Ouais. Je mets un dernier morceau de cette époque sur Motor Booty Affair, parce qu'en tant que Français, on connaît évidemment le sample original. This is exciting, ladies and gentlemen. I'd like to say this is Howard Mansell reporting for the Motor Booty Affair. We're seeing all kinds of people coming in here now. We got Green Creek Lane, we got... Je savais pas qu'on parlerait d'alliance ethnique.
Mais, simple et funky. J'en profite pour passer un énorme bonjour à mon énorme pote Guts.
Ok.
C'est ton énorme pote?
Oui.
Alors, vas-y, je fais dans la caméra, c'est pas grave. J'aimerais bien le recevoir dans cette émission. Je sais qu'il est extrêmement discret, que c'est compliqué. Mais...
C'est compliqué. Mais on en parlera après si tu veux.
On en parle après, très bien.
Simple et funky.
Simple et funky.
Alliance ethnique,
c'était
voilà.
Écrit dedans.
Mais c'est pour dire que, en fait, si le nom de Clinton et de Parliament and Funkadelic parle pas forcément aux gens comme ça, bah, tu vois, tu peux leur dire que Give Up the Funk, c'était quand même la pub pour les jeunes louches Axe.
C'est vrai. C'est vrai.
Et que ça, c'est Alliance ethnique, tu vois.
Mmh. Ouais, ouais, non, mais enfin, moi, justement, en tant qu'enfant du hip-hop des années 90, en fait, tous les trucs où, justement, à un moment donné, dans un morceau, tu te dis putain, la phase, elle est bien là. En vrai, c'est le sample où il rejoue des trucs de Clinton, tu vois. Mmh. À chaque fois qu'il y a un moment d'instrumental où, justement, t'entends le Moog, machin, etc., c'est repris, genre sur Flashlight, là, je sais pas, il doit y avoir. Des dizaines d'albums qui ont pioché ce morceau-là pour construire leurs morceaux qui sont parfois ultra connus, tu vois. Oh, donc, ouais. Non, ça fait plaisir, hein, j'aime bien. Ah, je suis bien.
comment ça se passe en parallèle? Parliament, ça y est, c'est le gros succès. On a écouté les tubes, donc le 75 jusqu'à quoi, 77, 78, 79.
Ça décline après Funky Teleki versus Placebo Syndrome. Ouais. Vraiment, c'est le max. Non, après, il y a Motor Booty à faire, pardon. Ouais. Après, les deux derniers, Glory à la Stupide et Trombipulation, ne sont plus très bons, mais comme c'est. Il y a un moment où ça s'essouffle, quoi, tu vois, forcément. Autant je trouve que les funkadéliques arrivent à tenir la route jusqu'au bout, parce que c'est plus varié. Mais après, je trouve que la recette Parliament, elle est en train de se faire bouffer un peu par le disco. Et après, je trouve les derniers albums un petit peu plus feignants, même si sur Trombipulation, il est encore dans les délires où en fait le funk a été amené par les Cro-Nasals, une vieille civilisation avant. Donc dans la pochette, il y a des fausses notes d'un faux carnet d'un archéologue, tout ça. Clinton a une énorme trompe comme ça, il fait les interviews avec.
Tu parles d'interview de Clinton, je trouve ça, parce que c'est régulièrement pour les interviews radio d'ailleurs, il envoyait quelqu'un d'autre à sa place.
Alors il y a eu ça à la grande période. En fait, c'est à la grande période de Parliament Funkadelic où vraiment ils faisaient des tournées. C'est quand ils ont tourné, commencé la tournée P-Funkers Tour avec la. J'invite les gens à aller voir un petit peu ce que ça donnait, un vaisseau spatial qui atterrit sur scène et tout ça. Enfin, un truc incroyable. Vraiment, c'est un spectacle pyrotechnique et tout. Enfin, vraiment du délire. Et ben en fait, tellement pris par le temps, c'était son manager. Alors un des managers, parce qu'il y a un team de management, mais Archie Ivey, c'est vraiment son gars, même encore maintenant, c'est encore Archie Ivey, c'est son pote. Et c'est Archie Ivey qui parfois donnait des interviews à sa place. Donc en fait, il téléphonait, les mecs étaient persuadés d'avoir Clinton, mais en fait c'était Archie Ivey. Ils ont même sorti un disque, en fait ils ont pressé un album d'interviews avec des réponses, et qu'ils envoyaient ça au DJ, et quand le DJ, tu sais, il y a comme plein de stations de radio, c'est les WBF machin là, bah en fait quand le Parliament Funkadelic jouait le soir, et ben le DJ il montait un interview tu vois avec les trucs. Mais il y avait tellement de petites stations que je veux dire pour savoir qu'il y avait un mec à l'autre bout du pays qui avait le même interview, tu vois. Mais ce truc existe, hein, cet album il est introuvable mais il existe, c'est le Dr Funkenstein qui est dessus.
Pour ce qui est de Funkadelic, il va falloir, alors ils vont continuer à sortir des albums, hein. Je vois il y en a en 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, deux en 76 avec Hardcore Jollies et Tales of Kid Funkadelic.
C'est le alors en fait juste pour t'expliquer, c'est en fait c'est le moment où ils passent de ce que je te disais tout à l'heure de Westbound à Warner. Et en fait le truc c'est que
ils doivent des albums en fait au label, ils signent,
exactement. Et donc comme ils doivent encore un album à Westbound. Ouais. Il lui donne celui-là, et tout de suite après, peut-être 6 mois après, il y a l'autre qui sort chez Warner.
mais là, c'est fou. Hein. Chaque année, t'as un album. Là, sur cette année, t'en as deux. 77, il n'y en a pas. Et 78.
Il y a les albums, comme on disait tout à l'heure, les albums satellites, les Brights, Parlettes,
bien
les
sûr. Ornions. Oui, là, je parle vraiment que de Funkadelic. Ouais. Mais en fait, si tu prends la Galaxy P-Funk, c'est limite 4 albums par an. Enfin, c'est des...
Avec toujours, au centre de ça, Bernie Worrell qui arrange tout.
Et pour Funkadelic, il faut attendre. Autant Parliament 75, ça y est. Funkadelic, il faut attendre 78. Avec One Nation Undergroove. Et là, effectivement, c'est l'album du succès pour Funkadelic. Et qui, paradoxalement, tu me dis si j'ai raison, si j'ai bien retenu la leçon, ce que tu expliques dans ton livre, c'est que bah, le son Funkadelic, ça commence petit à petit à plus être Funkadelic. Ça devient Parliament, en fait.
Ça, c'est, les deux commencent à se rapprocher. Même si on a encore de la guitare, on peut avoir des morceaux un peu plus durs et tout, les deux commencent à se rapprocher dangereusement. Et c'est Parliament qui va gagner, en fin de compte, sur les albums suivants. Mais là, la différence notable, c'est que, et là, on va encore parler de G-Funk, c'est que sur cet album arrive, par l'intermédiaire de Malia Franklin, qui avait déjà amené Boosie, arrive encore une connexion de l'Ohio qui est Juni Morrison qui vient de Cincinnati, d'Ohio, peut-être pas de Cincinnati. Et en fait, c'est lui qui vient au départ pour graisser les morceaux, tu vois, quand il y a un truc qui bloque. Et en fait, il va faire tout cet album, quoi. Et le son des Ohio Players, Funky Worms et tout ça, c'est un truc tu vois, que t'as retrouvé. Même les X-Men l'ont samplé, etc. Et lui, en fait, il va prendre tout le contrôle de One Nation Undergroove, c'est vraiment lui qui est derrière, au détriment de Bernie Worrell, qui petit à petit va commencer à s'effacer. Et là, il va y avoir une période un peu de règne, entre guillemets, de Juni Morrison.
Ok, bon, à ce moment-là, on s'écoute Who Says Funk Band Can't Play Rock?
Allez.
Funkadelic sur l'album One Nation Undergroove.
Who said?
C'est riche musicalement quand même. Hein.
Oui, mais oui. Mais on commence à se rapprocher du Parliament, tu vois, avec les chœurs, les voix et tout ça. C'est à chaque fois, c'est ce que j'aime bien souligner à chaque fois, c'est qu'il faut se rappeler que on n'est pas dans l'époque des home studios et du numérique et tout ça. Quand il y a une couche de trois couches de voix féminines, deux couches de voix masculines, il faut passer à la cabine pour les faire à chaque fois. C'est pas du copier-coller. Ça va lui faire connaître vraiment le succès en fait. Là, le succès avec Parliament. En fait, c'est le moment où Phil Clinton assoit ses deux groupes en fait en haut du funk. James Brown a complètement disparu de la circulation. Son seul rival, enfin pas son seul parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à l'époque, mais c'est quand même Earth, Wind & Fire qui se dresse sur sa route, qui est vraiment un groupe qui a du succès et qui c'est le seul groupe de funk, pardon, qui peut à l'époque rivaliser avec Parliament sur scène. Eux, ils arrivent avec des délires, avec des pyramides, tu vois, ils sont dans un truc ésotérique, ils sortent de tubes et tout ça.
C'est marrant parce que ouais, c'est le Earth, Wind & Fire qu'on connaît nous, c'est pas forcément celui-là, c'est celui des années 80.
Ouais, c'est ça.
Un peu
September,
plus...
Pookie Wonderland, ouais. Et tout ça. Mais là, alors moi, je te parle plus de la période All in All.
Oui, bah ouais, voilà. Justement, ouais. Il y a des morceaux qui sont incroyables de Earth, Wind & Fire. Moi, je les ai écoutés, j'ai fait, oh putain, je savais pas que c'était eux, en fait.
Bah oui, parce que il faut lire le bouquin pour vraiment savoir tout ça, mais en fait, il rencontre des gens sans cesse en tournée, etc. Il est très pote avec Sly Stone, par exemple, de Sly and the Family Stone.
Sly Stone, ouais, c'est aussi son pote.
Parce qu'il y a la drogue qui les réunit beaucoup aussi.
Alors, il y a ça, mais il y a aussi que Clinton est un admirateur du taf de Sly Stone, en fait. Il y a aussi ça. Bon, après, c'est vrai qu'ils aiment bien se foncer ensemble. D'ailleurs, ils vont se retrouver arrêtés sur un parking en train de fumer du crack tous les deux.
Oui, parce que oui, il y avait la drogue, il y avait le LSD, etc. Mais
le crack.
Ça a changé.
Les années 80 arrivent et à la fois musicalement, artistiquement, ça commence à être plus compliqué. Et ouais, il commence le crack, etc.
Bon,
ça commence à
devenir... PCP.
Alors, il y a un documentaire qui existe. J'ai oublié le nom. Mais c'est en gros les musiciens du P-Funk qui racontent un peu la phase B de comment ça pouvait se passer, etc. quoi. Alors comme si j'ai pas eu de contradiction ou de quoi que ce soit, j'ai préféré pas l'utiliser pour le bouquin, mais il y a je ne sais plus quelle chanteuse qui raconte une fois, elle arrive à United Sound et en fait elle trouve personne dans le studio alors tout le monde devait y être quoi. Et en fait elle va dans le sous-sol et là elle raconte qu'elle voit Clinton qui avait des cailloux de crack comme ça et il les émiettait et tout le monde en ramassait par terre. Il appelait ça la chasse aux œufs de Pâques. Ouais. Étant donné que c'est la seule qui a raconté cette histoire,
oui, je préfère pas
l'utiliser, mais
peut-être
pour te dire que dans ce documentaire, ouais, ça parle de ça.
Ils étaient cuits quand même.
De toute façon, là, on s'est arrêté en 77-78. Résumons rapidement, mais c'est plus l'apogée quand même de George Clinton petit à petit. Alors certes, il va produire par exemple pour Zapp avec Roger Troutman, mais derrière justement ça va être le bordel. Peut-être que tu racontais cette histoire.
Alors, je vais pas en parler parce que c'est vraiment un moment très clé. Voilà, mais faut savoir que allez, on peut Clinton veut monter pour revenir sur la Motown, son modèle étant la Motown, il aspire à monter un label avec un studio, etc. Un truc autonome, quitte à être financé par les majors, mais voilà, pour être autonome derrière, quoi. Et en fait, il monte Uncle Jam Records avec son pote Archie Ivy, avec son autre pote Sidney Barnes, avec un très sulfureux cubain qui s'appelle Nene Montes. Je vais pas raconter, mais les gens iront voir dans le livre. Voilà, ce label est fait pour marcher. Et ensuite arrive le problème de Roger Troutman et de Zapp, qui va mettre un sacré bordel là-dedans. Et qui va être le domino qui va tout faire tomber, en fait.
Bah, en gros, juste résumé, concis, allez lire le bouquin pour avoir les détails.
Parce que c'est quelques pages quand même,
ouais,
assez intéressant.
Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, normalement, il devait bosser avec Clinton, Roger Troutman. Il lui fait une crasse. Ça se passe mal. Clinton le prend mal et s'embrouille avec Warner. Warner, chez qui il est signé. Donc, voilà. Et derrière,
tout s'effondre derrière.
Ouais, oui.
Tout s'effondre derrière, d'autant plus qu'il est plus trop pas forcément lui, hein, mais le funk commence petit à petit à se faire grignoter par le disco. C'est plus le funk est petit à petit comme quand lui il est arrivé avec le funk, enfin comme tous ses articles quand ils sont avec le funk, ils ont un peu ringardisé la musique d'avant en faisant la musique des vieux, des parents. Bah là, il est en train de se passer la même chose un peu, ils deviennent la musique.
Et en même temps, il y a un paradoxe parce que à la fois donc c'est la descente, il va jamais revenir complètement au sommet, mais il va avoir régulièrement des trucs où il remonte, où il repointe son nez, ou des collaborations ou des trucs comme ça. Et par exemple, il va avoir des problèmes juridiques, il pourra plus un temps utiliser ni Parliament ni Funkadelic comme nom.
Alors tout à la suite de ça en fait. Quand tout se casse la gueule.
Absolument. Et ce qui fait que derrière, il sort un album sous son nom.
La première fois.
Et mine de rien, alors ce que tu racontes, c'est que sur cet album, bah, il s'inspire de trucs qui commencent à résonner un peu musicalement dans le monde entier. Il a entendu Kraftwerk, il a entendu Afrika Bambaataa, et en fait, le mec, sa carrière est sur, mais mine de rien, il a conscience de ce qui se passe. Il est encore, tu vois, ce nez, quoi.
C'est la différence de Clinton avec James Brown. J'adore James Brown, hein, parce que chaque fois je fais des. J'arrête pas de dire, ouais, James Brown, il est en train de tomber et tout ça, mais fanatique de James Brown, il n'y a aucun problème. Simplement, c'est que James Brown a toujours eu l'impression que, à mon avis, hein, qu'on pouvait rien lui apprendre et qu'il savait tout. Et donc, il s'est fait, à un moment, il s'est fait balayer, quoi, tu vois. Et quand il a réussi, quand il a essayé de s'y remettre, tu vois, Unity avec Bambaataa, c'est pas terrible, c'est nul, quoi. Donc, après avoir craché sur le disco pendant des années, bah, finalement, il fait un album de disco, il appelle ça Original Disco Man. Ouais. C'est pas terrible non plus, quoi. Il y a plein de trucs qui sont vraiment pas bons du tout avec James Brown. Et James Brown, ça va être hélas une chute sans fin. Alors que Clinton a toujours été veillé à, tu vois, à sentir ce qui se passait autour, quitte à se tromper. Hein.
Là, tu dis un truc rigolo, c'est que je pense qu'il commençait, il était plus non plus un jeune homme de 20 piges, tu vois, dans les années 80, et il se passionne pour les bandes d'arcade, les jeux vidéo, qui est un truc quand même relativement récent à cette époque-là, tu vois, tout le monde ne s'intéresse pas à ça, et il s'inspire pour son nom d'album de cet univers-là,
Computer
etc. Il y a un truc, et d'ailleurs il est encore en vie, George Clinton, il a jamais été... dépasser sa carrière n'a plus jamais été la même, indéniablement, mais son œil artistique, son nez artistique a jamais été complètement dépassé. C'est assez
parce qu'il a toujours veillé à avoir des mecs qui le tiennent au courant de ce qui se passe, et peut-être que même lui a toujours veillé à, tu sais, tout au long de sa carrière, il a toujours incorporé des gens, en fait. Et ça l'a toujours maintenu avec un petit vibe un peu fraîche, tu vois, par rapport à d'autres. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que quand Clinton va être... On va s'écouter sur Computer Games, Atomic Dog. Écoutez, on en parle après.
Allez, on s'écoute Atomic Dog. Est-ce que c'était dans tes morceaux? Absolument.
Oui.
C'est parti. Donc là, c'est George Clinton tout seul, on est d'accord?
Tout seul, ouais.
Atomic Dog. This is a story of famous dog. For the dog that chases its tail will be busy. These are clapping dogs, rhythmic dogs, harmonic dogs, house dogs, street dogs, dogs of the world unite, dancing dogs. Yeah, kind of dog, funky dog. Attends, il faut attendre quand même. Évidemment. Incroyable. Alors là, en plus, on sent la boîte à rythme, on sent des samples aussi qui sont répétés, etc. Il s'est modernisé, très clairement.
Mais là, en fait, il est pile dedans. Il est même futuriste avec ça, quoi. Mais
il
faut savoir que là, il se retrouve en carrière solo. C'est toujours les mêmes derrière. C'est toujours les mêmes musiciens. Ils sont encore tous là, sauf que maintenant, il a signé un contrat sous le nom de George Clinton. Mais à ce moment-là. Personne met un front sur sa carrière. C'est pour lui, il est terminé. Enfin, et ce qu'il réalise avec, ce qui est fou, c'est que quand il sort Atomic Dog, le single, à l'époque, ce qui cartonne, c'est Michael Jackson. Il arrive à déloger Michael Jackson du top 1 des singles, qui est avec Thriller, et il arrive à mettre Atomic Dog devant, quoi. Alors que plus personne misait sur lui.
Ouais. Et alors il y a un truc, c'est peut-être l'un des seuls défauts du bouquin entre guillemets, c'est que
je t'empêcherai de dire ça.
Non, c'est que on comprend tout à fait qu'il est l'esprit, le chef d'orchestre de tout ça, etc. On comprend un tout petit peu moins parce qu'on sait qu'il est chanteur. C'est dans quelle mesure il intervient sur les morceaux, il met les mains dans le cambouis, etc. Directement. À quel moment entendre sa voix sur. Alors tu parles d'un chanteur invité régulièrement, que c'est lui qui brille sur tel morceau, etc. Mais j'ai pas réussi en tout cas. C'est peut-être moi en tant que lecteur, hein, mais tu sais, apercevoir à quel moment vraiment on l'entend en tant que chanteur et plus seulement en tant que, tu vois, marionnettiste un peu qui organise tout ça.
Alors, on l'entend sur beaucoup de morceaux.
Ouais.
Simplement, il n'y a jamais, par exemple, sur One Nation Under a Groove, juste avant, on l'entend chanter, mais on entend aussi beaucoup Johnny Morrison. Ouais. Et c'est que ça, de toute façon, il n'est jamais soliste. Peut-être, je crois, le seul qui fait vraiment du solo, Ça doit être Fuzzy Haskins qui fait ça, et Glenn Goins surtout, qui est un chanteur incroyable qu'il a eu au début de Parliament, qui va mourir très jeune, mais qui a aussi une carrière un peu solo. Mais ça aussi, c'est assez intéressant de voir comment il s'est sorti.
Mais c'est dingue, parce que ce mec, il sait pas écrire la musique, il sait pas la lire.
Non, il joue de rien.
Il joue de rien.
Il joue de rien.
Il chante seulement sur les chœurs. Il a les idées.
Mais tu vois, j'ai parlé avec une des brides quand je faisais ce livre, avec Jeannette Magruder, qui m'expliquait qu'en fait, quand il était en studio, il y avait une forme de comme si il absorbait tout ce qui se passait et il arrivait à reclarifier pour tout le monde ce qu'il n'était pas.
Tu vois,
de dire cette partie-là elle est trop longue, cette partie-là il faut la remettre après quoi. Et elle disait que quand quand il était avec avec Jim Vitti, l'ingénieur du son, elle me disait c'était un truc télépathique quoi. Alors, tu comprenais pas de quoi il parlait, mais ils savaient tous les deux de quoi ils étaient en train de parler tous les deux et ça jaillissait sans arrêt quoi.
Pour clore ce podcast, parlons de cette deuxième vie d'une certaine manière, des influences, parce que on a déjà un peu évoqué le rap, mais il n'y a pas que le rap en fait, parce que par exemple il va produire pour les Red Hot Chili Peppers. Est-ce que tu peux un peu pêle-mêle comme ça, après pour les détails on ira dans le bouquin, hein, mais sur cette deuxième vie, cette seconde partie de carrière un peu plus derrière, tu vois, et surtout qu'est-ce qui va naître de sa musique chez les autres, tu vois, chez les jeunes, etc.
Il signe un contrat avec Capitol, donc le premier album c'est Computer Game qui marche très bien. Il signe un contrat pour trois albums, les autres marchent moins bien et sont de toute façon moins intéressants. Mais il se retrouve après, au début des années 90, même à la fin des années 80, redécouvert par le rap en fait, par les sampleurs. Atomic Dog, ça a été samplé des centaines de fois.
C'est What's My Name de Snoop.
Mais c'est ça. Mais de toute façon, même si t'écoutes Doggy Style et Mothership Connection, The Chronic, c'est Mothership Connection.
The Chronic, complètement, début jusqu'à la fin.
Mais vois, il a pas eu le temps, en fait, entre sa carrière, la mort de sa carrière, entre guillemets, et sa redécouverte, il a pas eu le temps d'être si ringard que ça, tu vois. Parce que quand Funky Drummer, qui est un truc énormément samplé aussi, a été redécouvert, c'est un morceau du début des années 70. Atomic Dog, c'est 82. Il commence à être samplé, tu vois, même pas 10 ans après, il commence déjà à être samplé et il revient tout de suite dans le truc, quoi. Et après ça, il a encore une autre traversée du désert et il est sauvé par un de ses disciples, qui est Prince.
J'allais le dire, ouais, parce que Prince était très funky aussi dans les années 90.
Mais c'est Prince qui lui fait, qui lui fait signer un contrat sur Paisley Park, son label. Qui est financé par Warner, avec qui Clinton a des embrouilles. Voilà. Après, c'est pas notable. Il fait un premier album qui s'appelle Cinderella Theory. C'est pas un truc transcendant, même s'il y a des bons morceaux. Mais par exemple, on a l'intervention là-dessus de Chuck D et de Flavor Flav, notamment. Public Enemy, exactement. Il va produire aussi des petits trucs à côté, notamment, tu le disais, il va produire Freaky Styli des Red Hot.
Alors, t'as cassé un mythe chez moi, parce que moi, je pensais que les Red Hot avaient grandi limite avec George Clinton, qui s'en était inspiré, parce que leur musique, les débuts des Red Hot, avant que ça devienne très très pop, c'était rock-funk, très clairement, voire un peu rappé, etc. Ultra influencé par George Clinton. Je sais qu'ils ont collaboré ensemble, et moi, je m'étais dit, mais en fait, ils ont grandi avec George Clinton, ils l'idolâtraient, et ils ont fait appel à lui. Non. Mais ils le connaissaient même pas.
Non, c'est ça, la maison de disques, en fait, qui s'est dit, pour les faire décoller, en fait, ça devrait bien coller avec Clinton, quoi. Donc, effectivement, il leur produit Freaky Styli. Ils viennent chez lui dans sa ferme dans le Michigan. L'album, il est fait toujours avec les mêmes. Hein. C'est du funk. Pour les cuivres et tout ça, c'est les Ornie Horns, c'est les filles habituelles qui viennent chanter quand il y a besoin de filles, etc. Ils se foncent des rabiens tous ensemble.
Oui, parce qu'à cette époque-là, les Red Hot, ça leur a coûté d'ailleurs. Ouais.
Mais d'ailleurs, Kiedis le raconte dans sa bio qu'en fait, il travaillait avec Clinton et Clinton n'arrêtait pas de se mettre des lignes, alors qu'eux, ils avaient déjà rendu les armes depuis un moment et lui, il était encore tranquille. Et donc, il produit ça pour eux. C'est pas ce qui va les faire décoller, en fait. Faudra attendre Blood Sugar Sex Magik avec Rick Rubin qui va vraiment, ils vont décoller avec ça, quoi. Mais il fait ça, donc il produit d'autres petits trucs aussi, Otis Jane the Night, voilà, il y a toute une histoire autour de ça que j'invite les gens à lire. Il y a ça, il va produire Incorporating Tang Bang, il va plein de petits trucs. En fin de compte, quand on le voit pas, il est encore là. C'est-à-dire que même s'il a eu à un moment avec la période Warner, il a eu énormément de problèmes, ils lui ont tous tiré dessus. Malgré tout, il arrive toujours à avoir un truc, un machin, tiens, produire un tel, tiens, il est toujours là en fin de compte.
Autres grandes personnes qui ont pu s'en inspirer ou collaboration, est-ce qu'on peut encore en citer quelques-uns, voire écouter des trucs en fait, peut-être où on ressent tout de suite la patte George Clinton, voire sampler, etc.
Les samples, tu peux prendre n'importe quel truc de G-Funk, c'est ça.
Un exemple, allez.
Prends Guerrilla Funk de Paris.
Ouais, mais ah, mais on l'a écouté dans cette émission déjà, non?
Je sais pas si, si on l'a écouté du Paris.
C'était, si, c'était dans ta, dans le dernier DLT d'ailleurs, dans la deuxième partie, tu sais, où on fait des suggestions musicales. Oui. Mais vas-y.
Bah non, mais dans ce cas-là, prends The Chronic de Dr. Dre.
Qui est maintenant sur Spotify normalement.
Oui. Tout à fait.
Merci Snoop. Il n'était plus pendant longtemps.
Merci Snoop. Et bah, tu peux écouter, tu peux mettre Fuck With Dre. Non, Let Me Ride, c'est Bootsy Collins.
Ok, Let Me Ride. Long time I watch you, I'm a one chat. You are a boy like you know one chat to me. So what I'm Drea, tell him what the fuck I'm going on. Creeping down the back street on D's.
En fait, ça c'est Swing Down, Sweet Chariot,
ouais,
de Bootsy Collins. Tu as sinon, vas-y, va tout à la fin.
Ouais.
The Roach.
Allez, hop.
Qui est le morceau qu'on a écouté tout à l'heure. Cannabis Sativa. Sauf qu'il remplace P-Funk par Chronic.
Ouais, ouais. Mais même l'intro de Doggy Style, c'est ça aussi. Hein.
Ah bah oui. Ah ça, il faut qu'on écoute, on les entend chanter en plus. Il y a les chants de Parliament ouais. Funkadelic.
Et il y a même une voix où le mec imite Clinton en fait. La voix tout au début.
Voilà. Ah. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que on parle de l'héritage musical, mais tu parlais de Starchild. Le personnage qui se créait, il y a eu des groupes genre Digital Underground qui ont passé leur temps à créer des alter ego d'eux-mêmes, des personas. Mmh. On a Warren G qui a créé le G-Child.
Mais Digital Underground et Chuck G, c'est encore pire parce que ouais. Eux, ils ont prolongé l'esprit. Ils se revendiquent Sound of P et eux, ils prolongent ouais. Vraiment tout ce qu'il peut y avoir de cartoonesque, de personnages et tout ça dans le P-Funk. Enfin, ils font du
pirate. Pour la petite histoire, hein, Digital Underground, c'est les mecs qui ont découvert Tupac. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette information, mais voilà, c'est un rodi de Digital.
Le morceau sur Doggy Style dont vous parlez, c'est G-Funk Intro.
Ouais.
Ouais. Allez, bah oui, bah voilà.
Incroyable. This is
another story about dogs. Avec la voix, tu vois.
Et ça, c'est une voix qu'ils ont gardée chez Defro sur tous les albums. Cette voix grave comme ça. Incroyable album, bien sûr.
Que je préfère à The Chronic personnellement.
Ouais, plus actuel.
Bon, en fait, ça rate, mais ouais.
En fait, c'est marrant, mais The Chronic, je le réécoute là, et vraiment, pour moi, c'est un. Il est redevenu classique. Moi, j'écoutais beaucoup plus Doggy Style quand Doggy Style est sorti, c'est sûr. Mais là, dernièrement, j'écoute beaucoup plus souvent The Chronic parce que vraiment. Le pont, il est complet, quoi, avec les musiques qui les ont inspirés. C'est, enfin, tu vois, ils reprennent carrément les trucs, quoi. T'as l'impression d'écouter du Clinton directement, tu vois.
J'ai un autre exemple plus récent de pompage en règle, enfin, dommage en réalité. Hein. Mais alors là, c'est sur du Bootsy Collins encore une fois. Alors le grand tube solo de Bootsy Collins, c'est "I'd Rather Be With You". Mm-hmm. Évidemment, ça ressemble à ça.
Bah, c'est Tupac. Hein. Les guitares mouillées là.
Cette basse là un peu brouhaha, ouais. Filtrée. Tu sais.
Mais non, mais tu vas pas mettre ça.
Si. Et parce que je veux pas prendre juste un sample, ouais. Tu vois, c'est trop facile. Après ce qu'on vient d'écouter, "I'd Rather Be With You" donc de Bootsy Collins, bah on peut écouter ça. C'est Childish Gambino.
Ouais, bah carrément.
C'est Redbone.
Mais l'album de Childish Gambino, c'est un hommage à ça. Il y a même sur cet album, il sample aussi "Good to Your Ear Hole" de Funkadelic.
C'est complètement inespéré.
Ah ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Ouais, bah complètement. Il y a un autre artiste qu'on n'a pas évoqué qui s'est très 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 inspiré de Clinton. Enfin, il faut pas inspirer. D'ailleurs, c'est l'héritier. C'est DJ Quick.
DJ Quick, ah bah oui.
DJ évidemment. Quick, notamment sur.
Essentiel pour G-Funk de toute façon.
Bah ouais, sur tous ses albums, hein, globalement, mais si tu mets sur Safe and Sound. Now we about to get up out this motherfucker. DJ Quick.
On retrouve même, tu sais, le jeu avec la molette de pitch là, tu
vois. Ouais, ouais, non mais. Ça c'est l'intro et en fait tout cet album là c'est complètement ça quoi, c'est vraiment pour moi c'est ça qui est marrant, c'est que du coup pour moi le P-Funk c'était une musique actuelle.
Ah ouais.
Genre en 1995 c'était normal tu vois, alors qu'en fait pas du tout, ça avait 20 ans déjà tu
ouais,
vois.
C'est fou. Il y a un truc, alors je t'avoue que j'ai pas encore eu le temps d'arriver vraiment au tout dernier.
C'est pas grave, on va le faire là, tranquille.
C'est, est-ce que tu parles aussi de tout ce qui est French Touch, etc. Parce qu'il y a quand même aussi, j'ai l'impression, une influence. J'ai un morceau en tête.
Les Daft Punk.
Qui est un remix de Thomas Bangalter, je crois. Attends, je vais essayer de le trouver.
Ah bah c'est featuring c'est... Parliament.
Ils ont mis carrément en featuring. Ouais. Parce que tu vois, en fait, c'est samplé. C'est Scott Groves. Et je crois.
Sans moi.
T'es pas adepte de Daft Punk?
Pas spécialement.
Et c'est même pas Daft Punk là, mais je crois qu'il y a un lien. Je sais plus quoi. Ah, ça c'est le remix de Daft Punk. Mais c'est pas l'original. Voilà. Bon bref, on est quand même là. Bah, c'est les voix de Funkadelic, samplées, de Parliament Funkadelic, etc.
Mais il y a aussi.
Pas, mais... on a bien compris. Mais
il y a aussi ce qu'il faut dire, c'est que Clinton lui-même s'est pas contenté d'être samplé. Il est même allé dans le rap aussi.
Il est allé dans le rap.
Sur l'album ML Smell My Finger, le deuxième album qu'il fait chez Paisley Park, le label de Prince, il y a un morceau qui s'appelle Paint the White House Black. Je sais pas si on peut se l'écouter, mais on a sur ce morceau, on a Public Enemy, Ice Cube, Dr. Dre, Yo-Yo. Enfin, c'est un. Vraiment un super morceau, quoi.
C'est parti. Donc là, on est sur un featuring où apparaît George Clinton, c'est ça?
Non, c'est un morceau sur un album.
C'est
de
l'album
Clinton.
De Clinton.
Ah, ouais. C'est sur l'album
c'est
de
sur
Clinton.
Sur
MS Man My Finger.
Et là, on a Dr. Dre qui parle au téléphone. Ouais. Ice Cube qui ouvre le morceau. Ça va.
Ouais, ouais. Il y a aussi Yo-Yo plus tard. Il y a Public Enemy à la fin.
Trop mal en plus.
Ouais, c'est carrément bien cet album. Ah, ce morceau est carrément bien.
On est en quelle année là? T'as une idée?
On est en 93, je crois. Clinton, Bill vient d'arriver à la Maison Blanche. Okay. Voilà. Et ensuite, t'as aussi par exemple sur l'album Dope Dogs qui arrive plus tard. Alors, il va changer de nom encore une fois. Il sort en parallèle des albums sur le nom des P-Funk All Stars.
Okay.
Qui sont en fait.
Oui.
C'est toujours encore les mêmes. Voilà. Et,
ouais, il y a carrément des feats avec Snoop. Avec,
Ouais, mais il fait Follow the Leader en fait. Il reprend Follow the Leader. Après, ça va être plus en dents de scie, hein, ces albums. Il va avoir tendance à sortir des gros albums. Genre, il disparaît pendant presque 10 ans, puis après, il sort un album où t'as 25 titres, donc faut faire le ménage un petit peu. Mmh. Mais faut pas oublier que pendant tout ce temps, ils tournent à l'année. C'est une centaine de concerts par an minimum, donc dans le monde entier. Et après, voilà, il va se faire quand même plus rare sur les sorties discographiques. Il va sortir deux albums sous le nom de George Clinton, et George Clinton et les P-Funk All-Star. Après, il va sortir, il y a 4-5 ans peut-être, un album de Funkadelic.
Il y a 4-5 ans, ils ont sorti un album?
Ouais, ça faisait 38 ans qu'ils n'avaient pas sorti d'album de Funkadelic.
Okay.
Donc l'album fait 38 titres.
C'est bien?
Non. Non, faut trier à mort. Mais il y a des trucs, des moments, tu vois, où tu dis, mais oui, mais il faut trier à mort.
Est-ce qu'il y a justement un endroit, tu sais, on dit toujours, il y a des styles musicaux qui deviennent confidentiels, mais genre qui sont super écoutés au Japon, par exemple. Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où on écoute encore, on se bute au P-Funk ou
Il y a une grosse scène au Japon parce que au Japon, ils ont
à une période,
ils ont sorti énormément de fonds de tiroir. Enfin, ouais. Pas forcément des fonds de tiroir. Ils ont sorti 5 albums qui s'appelaient les George Clinton Family Series. Mm-hmm. Et en fait, c'est des trucs que j'ai jamais sortis. Pour diverses raisons. T'as des purs trucs, hein, vraiment. Alors, des trucs où tu dis, ça ressemble tellement pas à du Clinton. Genre, une chanteuse qu'il avait qui était Jessica Cleaves. Il lui fait, c'est des trucs un peu, tu vois, Roy Ayers avec Didi Bridgewater.
Ouais.
Tu vois, ça sonne un peu comme ça. Tu vois, ça rien à voir avec du Clinton. Il a des titres de Parliament, des titres de. Il y a un morceau qui s'appelle Love is Something, je l'ai mis sur la clé. Et les
bras, un extrait, puis on terminera peut-être avec ça.
Magnifique morceau.
Allez, Big in Japan. C'est de qui tu as dit ?
C'est les Brides of Funkenstein avec Eddie Hazel, pardon.
Très bien.
Tuerie ce morceau.
Ah ouais. Ah ouais. C'est quelle année ça?
Ça doit être 77 ou 76, un truc comme ça. C'est des trucs qui étaient restés dans les tiroirs en fait.
Wow.
Jamais sortis.
La gueule des tiroirs.
Ouais.
Ah, très bon, très très bon.
Et donc voilà, pour te dire, les Japonais ont sorti ça,
ouais.
Family Series, et à un moment, le label P-Vine était un peu spécialisé dans pas les seconds couteaux, mais ceux qui voulaient sortir des albums un peu solo, tu vois, comme Michael Hampton, le guitariste qui a sorti un truc sur P-Vine, tu vois, ceux qui n'arrivaient pas à trouver des deals aux États-Unis sur des majors. Après, Clinton a toujours été le bienvenu en France, en Angleterre et en Allemagne. Il tourne encore, il avait annoncé une première fois, il a eu une période compliquée en fait, il a fait 30 ans de crack quand même, il a eu un petit peu de mal à s'en sortir jusqu'à un moment où, encore avec son ami Sly Stone, ils ont dépassé les bornes, et là il a fini à l'hôpital et c'est là qu'il a eu un peu, il s'est un petit peu repris en main, donc il a coupé ses locks, je sais pas si tu te rappelles, mais dans les années 80, 80-90, Clinton
coloré,
des locks, voilà, c'est ça, et ça c'est exactement ce que je voulais pas pour la couverture, quoi. Je voulais pas qu'on ait cette image de Clinton, donc il a rasé ça, il a perdu du poids, il a arrêté de s'habiller avec ses espèces de grands boubous colorés, il s'est mis en costard et tout, il a retrouvé un peu sa voix, parce que tu vois, 30 ans de pipe, ça lui avait bien ruiné la voix, et donc il est reparti en tournée, il a annoncé une première fois qu'il arrêtait. Il a donné une date butoir, puis finalement il a repris quoi. Il continue, il mourra sur scène, je pense.
Il a 82 ans aujourd'hui.
Il a sorti aussi un album de Parliament, doit y avoir 2 ans, je crois.
Oh, le mec.
Ouais. Qui s'appelle Medical Fraud Dog. C'est pareil, c'est il y a une vingtaine de titres, je crois, un truc comme ça. Il y a des trucs qui n'ont aucun intérêt. Mais c'est marrant parce que le CD en fait s'ouvre, comme c'est le concept des gens, c'est le concept d'une population qui serait sous médicaments. Et en fait, le CD, quand tu l'ouvres, ça fait une grosse gélule.
Rouge
et bleu. Tu vois, et il continue à tourner. Si tu vas sur son Insta qui s'appelle You Like George, il continue à tourner. Alors évidemment, il n'est plus le même. Mais tu vois, il est encore plus chef d'orchestre que d'habitude. Quoi. Mais il est toujours là. Quoi. Par contre, voilà, il a enterré.
Prince. Sly Stone déjà.
Mais il est encore vivant, Sly Stone. Bien sûr, Sly Stone. Mais non, Sly Stone est encore vivant. Bien sûr.
Sérieux ?
Mais bien sûr !
Je confonds.
Ah oui, il est encore vivant, Sly Stone.
C'est ça qu'il est à moitié clochardisé.
Il a aussi une période un peu compliquée. Et il y a un extrait d'un interview de Philippe Manœuvre, d'ailleurs, dans le bouquin, ce sujet. Quand même.
Okay.
Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus.
Tu sais ce que je te propose ?
Ouais.
C'est qu'on conclue.
Bah, si tu veux.
On arrête là, parce qu'on a bien vu. Enfin, quelle vie quand même incroyable que ça.
Oui, c'est ça, voilà. Pardon, excuse-moi, je reviens là-dessus. Le nombre de gens qu'il a enterrés dans ses musiciens. Ouais. Et très tôt, hein. T'en as qui sont morts. Glenn Goins est mort à 27 ans, tu vois.
Ah, 27 ans.
Mais il a eu un cancer. T'en as plein qui sont. Enfin, à un moment, il y a une période où le mec, tu te dis, il passe sa vie dans les enterrements, quoi. Maintenant, il reste de vivants. Il reste encore Grady Thomas. C'est le dernier Parliament vivant, puisque Fuzzy Haskins est mort en mars dernier. Donc, c'est le dernier vivant. Et puis, ses deux grands potes. Son grand pote Sidney Barnes est encore vivant. Sidney Barnes qui a été dans le groupe Rotary Connection. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Non.
De Minnie Riperton. Le groupe de Minnie Riperton.
Ah, oui.
Voilà. Okay. C'est Sidney Barnes qui a écrit des trucs là-dedans. Sidney Barnes et Archie Ivy sont encore là. Tom Vickers aussi est encore vivant. Lui, Tom Vickers qui a été un des gars de la promo est descendu du vaisseau avant que ça commence à devenir trop dangereux.
Bon, en tout cas, on vous invite évidemment à lire ce passionnant bouquin de Real Musul, P-Funk, le disait George Clinton. Ça vaut le coup. Vous avez eu qu'un aperçu de la longue carrière, la longue vie de George Clinton. Il y a plein d'anecdotes folles, etc. C'est très très cool. Écoutez aussi, vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre.
Bien sûr que aussi.
Par contre, vous êtes obligé d'aller écouter la discographie de George Clinton. T'es pas d'accord avec ça un peu quand même?
Bah, en fait, achetez le livre et après il y a un QR code qui vous envoie vers une playlist.
Et bah, faites les deux.
Qui reprend chronologiquement les chapitres et qui vous donnera peut-être envie d'aller forcer plus de trucs.
Non, mais ça vaut le coup en fait de se plonger justement. Parce que, moi, par exemple, je connaissais pas trop mal Parliament Funkadelic et George Clinton, mais le fait j'avais ignoré plein de choses de leur discographie et le fait que ce soit chronologique, de suivre ça avec la narration du bouquin, plus en écoutant, etc., ça prend une dimension quand même plus riche, tu vois, intéressant, tu comprends pourquoi, etc. Donc ça peut être une super démarche à faire, effectivement.
Par contre, il faut absolument dire non à la drogue quand vous aurez lu ce livre.
C'est mieux, hein.
Ouais. Même avant.
Même avant. Non, mais par exemple, les gens qui ont des doutes en se disant, tiens, je me droguerais bien à l'occasion.
Peut-être que 30 ans de crack.
Faut voir. J'essaierai bien le crack. Et vraiment, quand t'as lu ça, tu dis, ouais, non, autre chose.
Il y a un autre truc que vous devez absolument faire, hormis écouter George Clinton et acheter le bouquin, c'est nous mettre une petite étoile sur les plateformes de podcast. C'est un petit commentaire. C'est dire si vous aimez bien, même si vous aimez pas, c'est pas grave, mais juste commenter. C'est 5 étoiles et vous nous défoncez. C'est pas grave.
Est-ce qu'il peut y avoir des commentaires, tu sais, comme les paquets, comme les disques sur Amazon, des fois, où tu vois un mec qui a mis une étoile, tu vois, la chronique du disque, puis tu dis, pourquoi il a mis une étoile? Oui, l'enveloppe était détériorée.
Ah oui, ça c'est dur.
Voilà. Mais, tu vois, il pourrait mettre, tu vois, en
mauvais montage.
Non, ou bien, mon wifi est tombé en panne pendant que j'écoutais.
Ah, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Non, ils sont pas comme ça, nos auditeurs. Ils sont malins. Ils sont malins. C'est des gens curieux, intelligents, à l'image de cette émission, j'ai envie de dire.
Bien sûr.
N'est-ce pas, Daz?
Oui, tout à fait.
Bon, merci beaucoup, évidemment, à la Bouclette pour toute la technique grâce à qui on fait cette émission. François, évidemment, pour son montage. Daz, merci aussi.
Merci, Salman. Merci, Eril Musul.
Merci de l'invitation, surtout.
Bah, avec grand plaisir. T'as passé un moment, ça?
Ah, carrément.
Bon.
Vive le funk.
Vive le funk. Ah, bah, ça.
Hein,
oui.
Oui, hein.
Vive le funk et la funk.
Non.
Vive la funk. Dédicace à tous les Lyonnais.
Oui. Je reviendrai avec des vrais.
Très bien. On se retrouve dans 15 jours. Nouvelle invitée, nouveau sujet. C'est la nouvelle saison. Longue vie à DLT. Ciao.